Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent.
Les pieds dans le poche. Les pieds dans le poche.
Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e numéro des Pieds dans le Patch, le podcast 50% audio, 50% instruments de musique et 100% arabica. En partenariat avec DPA et Cameo et en direct des locaux d'Audiofanzine à Montrouge. Je suis Grégoire Najboer alias Red Led et sont présents aujourd'hui autour de moi Esther Lévy alias Benchin et Avalon en direct de Malaga via la magie de l'internet et de Mumble. Comment ça va Esther?
Salut, salut, ça va bien et vous?
Toujours une aussi belle voix Esther, plaisir de t'entendre.
Mais moi aussi, ça me fait plaisir de vous entendre. Je voudrais juste passer un petit message à Rio de Janeiro, qui est le premier à être arrivé. À 7h30, il nous attend de pied ferme sur le chat.
Ça fait une demi-heure qu'il est là. Eh ben, écoute, Rio, bienvenue à toi. Arnaud QF, alias Losteño, c'est aussi là. Il se déshabille, ça y est, c'est Kekalor. Muy bien, muy bien. Voilà, donc si vous avez des questions sur les roads virtuels, c'est assez spécifique.
J'ai pris cher cette semaine.
Mais voilà, il est là pour vous répondre. Ouais. Voilà. Donc, si jamais vous avez des questions, évidemment. Momo est toujours aux manettes, au son et à l'image. Et il sait parler aussi, je crois.
Ouais, bonsoir à tous.
Voilà, vous le voyez pas, il est derrière la caméra. Donc voilà, il lira vos commentaires sur le chat et interviendra régulièrement.
On va essayer de faire ça.
Tu me feras un petit geste voilà, pour lire les meilleurs commentaires. Pendant l'émission. Et je garde le meilleur pour la fin, comme d'hab, car nous avons la joie d'accueillir non pas un, mais deux invités aujourd'hui. C'est un truc de fou. Voilà, mon premier est ingénieur du son et producteur pour notamment Air, Phoenix, Sébastien Télé, j'en passe. Et donc Stéphane Bria, alias Alf. Bonjour Stéphane, comment ça va?
Ça va bien, bah salut.
C'est bien. Bon, t'as mangé une petite pizza là, t'es bien?
À manger pizza. Non, il manque plus que le chat et puis c'est bon.
Et puis on est bien. Et donc mon deuxième, c'est un habitué car il est déjà venu répondre à nos questions dans une précédente émission. C'est Denis Casageux de Automachine, voilà, qui fait des bois-boîtes à effet, grosso modo.
Je fais de l'effet, oui.
On avait senti qu'il y avait du potentiel chez Denis.
Bonsoir à tous.
Voilà. Et donc voilà, c'est pas un hasard s'ils sont venus tous les deux aujourd'hui parce qu'ils ont un projet en commun. Voilà. Et on en parlera plus tard dans l'émission. Mais au sommaire de ce 18e numéro des Pieds dans le Patch, on va parler cuisine avec nos deux invités, évidemment. On va revenir sur les news coup de cœur du mois passé, mais sans j'achète, je jette. Et ouais, l'émission est un petit peu modifiée. Vous nous direz si vous aimez ou pas. On a décidé d'acheter, justement, le j'achète, je jette. Et il y aura en revanche toujours le blind test et le carapella sur les thèmes des aliens. Voilà, on s'est dit, Alf, c'est un alien. Donc voilà, on va partir là-dessus. De l'espace aussi, on va se prendre pour les grosses têtes avec la rubrique des citations. Esther va faire les insolites et enfin nous allons écouter la compo du mois en fin d'émission. Mais avant toute chose, l'édito de Los Tenios.
Oui, notre premier invité s'appelle Alf, mais non, ce n'est pas un extraterrestre en plus venu de la planète Melmac pour bouffer nos chats. Alf, c'est en effet le surnom de Stéphane Bria, dont le patronyme ne vous dit sans doute rien, mais dont vous connaissez forcément le travail, vu qu'en tant qu'ingénieur du son, il a travaillé sur près de 250 projets underground, aux côtés d'artistes toutes plus inconnus les uns que les autres. R, Phoenix, Sébastien Tellier, tu l'as dit tout à l'heure, mais aussi MC Solar, Francis Cabrel, Etienne Dao, Jacques Higelin, pour n'en citer que quelques-uns. Moi, j'en connaissais aucun, perso. Bref, un bonhomme dont le CV aurait suffi à faire 3 émissions, mais qui, comme son nom l'indique, est indissociable de sa moitié, Denis Casageux. Oui, encore un ingé son que vous connaissez forcément si vous suivez le patch, puisque nous l'avons déjà invité dans cette même émission il y a quelques mois pour nous parler des 3 enfants dont il se partage la garde avec Stéphane, Bim, Bam et Boum. Je résume donc. À ma gauche, Stéphane Bria, dit Alf, 78 kilos, ingénieur du son. Et à mon extrême gauche, Denis Casageux, 75 kilos, ingénieur du son également. Messieurs, vous connaissez les règles. Vous parlez bien dans le micro. Et je le rappelle, les coupes bas sont interdits.
très bon.
Voilà. La lumière, c'était pourquoi?
Alors, sous les villas de la foule en délire, je sonne le début du round.
Oh, merde. Parler. Cette attends, émission commence tellement mal.
Franchement, niveau sound design,
c'est vrai, c'est... Non, c'est bien.
C'est de la recherche.
Je suis fier de toi. Je suis fier de toi.
C'est ce que j'ai trouvé de mieux en 3 minutes qui pouvait faire le ding d'un, ouais, d'un début de.
Non, mais c'est bien, c'est bien. Un petit mot sur l'édito, bien. Bien.
Parfait.
Hein bah, en tout cas, on est ravis de vous voir tous les deux.
Ouais. Merci de nous accueillir.
Ouais, ouais.
Et puis, on va vous poser quelques questions.
On va poser toutes les questions. Qui êtes-vous ?
Vous.
Non, pas moi, vous.
Oui, je suis vous.
Bon, contentez-vous de répondre, d'accord ? Qui êtes-vous ?
J'ai répondu à la question.
Bon, Stéphane, on va commencer par toi. Tu vois, on aime bien faire les choses dans l'ordre et tout. Et puis, bon, Denis, on lui a ouais, déjà parlé un petit peu. Ça, hein. Voilà, on connaît déjà tout de toi. Non, pas complètement, mais bon, voilà. Bah, écoute, moi, je voudrais commencer avec ton parcours, tout simplement. Voilà, t'es un G-son, t'as bossé sur plein de projets et tout ça. Et bah, je voulais savoir déjà si t'étais musicien à la base. Qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de devenir un G-son?
Je suis pas musicien.
Ah bah c'est intéressant ça, tu vois.
Non, je suis pas musicien. Enfin, je suis pas musicien. Tout le monde est un peu musicien, mais ouais. Je suis pas.
T'as tripoté
musicien,
un peu du synthé dans ta jeunesse, non?
Je suis pas instrumentiste. J'ai ouais. jamais appris à jouer d'un instrument réellement.
D'accord.
Donc j'ai ma petite expérience d'adolescent ouais. qui balbutiant sur un synthé.
D'accord.
À essayer. Et t'as fait de la flûte. Trucs, quoi. T'as fait de la flûte au collège.
J'ai fait de la flûte au collège, évidemment.
Comme tout le monde.
Il n'en reste pas grand chose d'ailleurs, mais.
Mais d'accord. D'ailleurs, c'était quoi ton premier synthé?
C'était un Korg Poly 802, je crois.
D'accord. Donc oui, donc t'as fait quand même un peu de musique.
J'ai fait un peu de musique. Oui, oui, j'ai fait un peu de musique, mais je suis pas ce qu'on appelle un instrumentiste, quoi.
D'accord. Ok. Et donc ouais, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de
bah,
quel jour tu t'es dit allez, j'ai envie de faire ça, quoi.
Ben en fait, moi, je suis un auditeur passionné en fait à la base plus qu'un musicien en fait.
Ouais.
C'est ça qui m'excite, c'est écouter la musique.
D'accord.
Okay. Donc c'était carrément l'alliage parfait. Ouais. De se retrouver en studio à travailler constamment.
T'as voulu découvrir tous les secrets.
Qui sont basés sur l'écoute, quoi.
D'accord. Okay.
Enfin, en même temps, t'aurais pu devenir DJ en tant que mélomane.
Ouais. Pas d'insultes tout de suite, s'il te plaît. C'est le début de l'émission.
J'ai essayé, mais ma mère m'a refusé l'acquisition d'un double platine.
D'accord.
Trop grand pour mettre dans ma chambre. Non, je lui en veux un peu.
C'est une sainte femme, c'est bien.
Ouais, peut-être pas là aujourd'hui. Hein.
Ouais, ouais.
T'aurais le casque comme ça, en fait.
Mais s'il y avait un instrument que tu rêverais de jouer, ça serait lequel?
La basse dans un groupe, ça me semble être une bonne position.
Ouais.
Un instrument assez jouissif. Non, c'est bien. La basse.
Mais qu'on remarque pas, c'est ça.
Ouais, mais parfois voilà. Primordiaux.
Bah, c'est ça. Si tu le retires, en fait, il y a un truc qui va pas.
Quand il y a pas la basse, tout le monde fait putain, mais c'est quoi ça? Il manque un truc, mais c'est vrai que quand il est là, c'est pas forcément lui que tu vois. Quoi,
et puis la basse, bassiste. Tout est neuf et tout est sauvage. Quoi.
Ouais, je pense que c'est un peu pépère et tout, c'est pas mal cette position de bassiste dans un groupe. Non ouais, qu'est-ce que t'en penses, Denis?
Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, le bon bassiste est celui qu'on n'entend pas. Et effectivement, quand on l'enlève,
si tu veux pas avoir un truc. Ouais, si tu veux pas avoir de rapport de type sexuel, effectivement, être bassiste, c'est pas mal.
Bah, en général, ouais, c'est le chanteur et le gratteur qui rafle dans le groupe de rock, hein, dans la sociologie rock. Hein.
Tripoté n'est pas joué, d'ailleurs, nous dit Analog Free.
Ah. Bonjour Analog Free. Et donc ouais, est-ce que t'as fait des études spéciales du coup? Tu t'es dit non, t'es arrivé comme
non,
ça.
Non, l'étude du porta studio et de la boîte à rythme,
synthé
dans la chambre et j'avais 2-3 copains qui au milieu début des années 80 en fait étaient disponibles sur le marché tous les analos des années 70 dont les gens se séparaient pour acheter à l'époque du DX7.
Ouais.
Donc ils rachetaient ça une bouchée de pain et pour des quelques centaines de francs ils se sont fait une collection complètement hallucinante de synthétiseurs à l'époque qui allait jusqu'au Memory MOOC, quoi.
D'accord.
Donc c'est chez eux en fait que j'ai découvert tout cet univers des synthés, des boîtes à rythme et tout ça.
D'accord.
Que fatalement j'associais avec la musique que j'écoutais. C'est tout ça qui m'a donné un petit peu envie d'en savoir plus et puis de voir un petit peu comment est, par rapport à l'émergence justement d'une certaine musique électronique à l'époque au début des années 80 tout d'un coup ça devenait possible de même sans savoir essayer de faire des choses. C'était ça qui était, c'était le début de cette idée, quoi.
Bah, ce qui est marrant, faut préciser aux gens, c'est que dans les années 70 les instruments électroniques étaient vus un peu comme des ersatz pour remplacer les instruments acoustiques, et je me souviens même que la TB était vendue comme un truc pour s'accompagner
pour les guitaristes
chez soi
pour faire de la basse
et,
pour les guitaristes
ouais voilà. Et du coup c'est vrai que quand les mecs de l'électronique s'en sont emparés, c'est devenu tout autre chose. Quoi.
Ouais, moi, je me souviens d'un gars qui jouait dans le métro, qui avait une TR-606 et une TB-303 associées, donc qui étaient les deux modèles, qui jouaient de la guitare par-dessus, un asiatique et tout. J'en garde. Moi, c'est mes premiers souvenirs de TB et de TR-606.
Il jouait quoi avec de la variété, quoi.
Ouais, il jouait de la pop, il faisait des reprises de chansons pop de l'époque. C'était pas passionnant, mais en tout cas, il avait son petit chariot avec sa TB et sa TR.
S'il savait que voilà, je sais pas s'il a gardé le petit chariot, mais bon, 10 ans plus tard, ça valait 20 000 balles. Bon, c'est cool quand même.
Et comment t'as fait alors pour pousser la porte des premiers studios dans lesquels t'as bossé ?
Bah, bêtement, en fait, à l'époque, j'avais acheté l'Officiel du Rock, qui était un annuaire qui recensait un petit peu tous les différents professionnels autour de l'industrie musicale. Et il y avait une section studio et je les ai fait un à un. Je regardais plus ou moins les références, puis j'ai été sonné aux portes. Ouais. Donc, carrément, j'étais.
Et donc, t'as fait le parcours, je fais les cafés, je monte les armoires IKEA.
Exactement, ouais.
Je passe le balai, je rembobine les magnétophones.
Bien sûr, ouais.
D'accord. Et c'est le premier studio que tu as réussi à squatter, du coup, c'était lequel ?
Le studio de la Bastille, qui était un studio qui venait fraîchement d'ouvrir. Et en insistant un petit peu, j'ai fini à réussir à mettre un pied dedans. Et puis, d'accord. Du coup, a pu.
Et faire pas que le café, quoi. T'as mis du temps un petit peu avant de...
Non, vraiment... ça a été très vite en fait. D'accord. Au bout de 3 mois, je me retrouvais derrière la console en train d'enregistrer un artiste maison. Mais parce que le gars qui doit normalement faire la séance n'arrive pas. Donc,
D'accord. Ouais. Attends, lui un piège, quoi, à vous.
Non, pas du tout. Mais ça a été assez vite. Après, la boucle, elle ne s'est pas faite comme ça. Je n'ai pas été lancé au bout de 3 mois. Mais en tout cas, j'ai pu avoir une première expérience seul avec un client au bout de 3 mois et essayer de gérer ça. Tant bien que mal.
T'avais quel âge à ce moment-là ?
20 ans.
Ah ouais ? Ouais. C'est jeune.
Ouais, j'étais en sortie de lycée, quoi.
Ah, et t'es resté combien de temps dans ce studio ?
Je suis resté un an et demi et rapidement, j'ai senti l'opportunité d'aller dans un plus gros studio, me retrouver dans d'autres configurations et technologiques. Il y avait le choix, différents choix. Après, il y avait à l'époque Davou, Guillaume Tell, Ferber et le studio Plus 30 qui était pour moi intéressant parce qu'il y avait autant... parfois des productions internationales qui venaient de passage à Paris enregistrées au studio, mais aussi il y avait une variété un petit peu chic. Enfin, il y avait ça, c'était pas aussi variété que chez Guillaume Tell ou d'autres endroits où vraiment il y avait une musique qui était entre Nana Mouskouri et Mylène Farmer. D'accord. Et puis ça.
Et c'est quoi variété chic alors du coup?
Ouais, c'était Étienne Dao, c'était Cabrel, enfin ces gens-là, ils venaient
travailler. L'affaire Louis Trio aussi, non ?
L'affaire Louis Trio.
Enfin, ceci dit, pas à cette époque-là, mais je sais pas si vous avez écouté des vieux enregistrements de Nana Mouskouri, notamment, elle a fait un disque avec Quincy Jones.
Oui, oui.
Ça. Ah, oui.
Et ça chante, quoi.
Ah non, c'est pas.
Ça chante et ça joue. Hein.
C'est très bien, Nana Mouskouri.
Ouais, faut pas dire du mal ici.
Non, rien
de mal sur Nana Mouskouri. Pas du tout.
Et est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec David Bowie, par exemple ?
C'était à Plus 30. D'accord. Ouais, en fait c'est un moment où il était en fin de tournée la volonté d'enregistrer à un moment le setup qu'il avait en tournée live de ce moment-là était de poser ses valises à Plus 30 pendant une journée ça a duré. Et où il y avait tout le groupe qui était donc à Bercy la veille qui s'est pointé et puis ils ont enregistré le 50 morceaux, l'équivalent du set total de ce qu'ils avaient joué. Je sais pas pour quelle utilité. Je pense pour archives. Il y avait tout le staff de scène de Bowie qui a rappliqué juste après avoir terminé le Bercy, monter tout le truc toute la nuit, remplir le studio Plus 30. On pouvait même plus circuler tellement il y avait de flycase et tout. Et le mec se branche directement sur le réseau électrique en triphasé, là, il y a des gars partout qui s'activent. Et puis finalement, le lendemain midi, il y a David Bowie qui se pointe et ils font un set comme ça.
Et c'est vrai alors qu'il arrive, parce que moi, je ne sais pas ce qu'on m'avait dit, il arrive, il fait une prise et il repart, quoi.
Bah là, pour le coup, il n'a pas chanté tout le long, c'est le groupe qui envoyait plutôt les morceaux les uns derrière les autres. D'accord. Lui, il a été chanté quelques minutes sur un morceau, mais sinon, il était dans le canapé...
Ça devait être impressionnant, ça.
Donc voilà, moi j'étais le gars qui faisait Play Record, c'était plus un kiff. J'étais à l'époque, j'étais même plus assistant, mais j'avais dit tiens, ça serait sympa de se retrouver sur cette séance. Du coup, j'avais fait Play Record sur cette séance.
Ouais. C'était assez. Du coup,
Vas-y, Esther.
Du coup, pardon, ça doit être assez impressionnant de voir comment les mecs fonctionnent justement dans une configuration studio live comme ça où les types enchaînent, où ils arrivent avec une tonne de matos. Pour toi, ça a dû être quand même à regarder ça, ça doit être assez, assez impressionnant.
Voilà, c'est un espèce de rouleau compresseur qui arrive, tout est hyper rodé. Ouais. C'est des gars qui ont tourné pendant 2 ans sur scène ou un an et demi, ouais. Je sais pas, avec le même setup. Il y avait des gars pour chaque, chaque médiator posé. Ouais. Il y a un mec qui était là, donc
assistant médiator.
C'est plus de voir c'est cette grosse machine arriver et puis de voir tout ça se faire plutôt que il n'y avait pas de travail de recherche, il y avait juste à constater un peu la puissance de production anglo-saxonne.
Les Américains, quoi.
Voilà. Toi, t'es rentré assez jeune dans les studios, mais tu sais, avant de rentrer dans des endroits comme ça, tu te fais toujours un peu une idée de comment ça va se passer et tout ça. Est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont vraiment surprise? Tu vois, où tu t'es dit, ah putain, je pensais pas que ça allait se passer comme ça, ou tu vois, dans le travail, dans un studio et tout ça, il y a vraiment des trucs.
Genre quand t'as vu ta paye, par exemple.
Ouais, c'est.
Au bout de 6 mois.
Je voyais pas comme ça, en fait.
Oui, ouais, bah, c'était un vrai questionnement d'ailleurs, rapidement. Je me souviens les 15 premiers jours, au bout de 15 jours où. Donc j'ai pénétré dans ce studio de la Bastille où ça faisait 15 jours que j'avais pas mangé, pas dormi, et qu'à un moment j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, peut-être que c'est un peu bizarre ce job.
Ouais.
Et j'y ai pensé une fois, et puis après, c'était parti, quoi.
Ouais. Et dans l'enregistrement et tout ça, dans la manière d'enregistrer une chanson, de la produire et tout ça, il y a des trucs qui t'ont surpris?
C'était une perpétuelle découverte, et puis c'est toujours une découverte en fonction des gens avec qui on collabore, c'est ça qui est assez enrichissant, c'est qu'on a des expériences et artistiques et humaines qui sont différentes en fonction des personnes avec qui on fait des projets, et c'est ça qui fait toute la qualité de notre travail, enfin ce qui le rend un petit peu plus excitant. Si c'était juste tourner des boutons pour mettre des graves et des aigus, ce serait chiant.
Il y a des choses particulières qui t'ont marqué de cette période, certaines sessions avec certains
d'Assistana,
c'était très hip-hop en plus, le studio Bastille à l'époque, si je me rappelle bien.
Oui c'est vrai, il y avait les disques de MC Solar, les premiers albums de MC Solar, le premier maxi d'NTM, Tonton David, IAM, enfin toute cette
Rapatitude quoi.
Voilà, Rapatitude à mort.
Il y avait des anecdotes sympas quand même, non?
Ouais, je suis passé loin maintenant, mais
Les prescriptions, c'est ça?
Non, moi j'ai pas de souvenirs complètement farfelus, hein, c'est pas.
Mais du coup, t'as appris à bosser avec les samples et tout ça quasiment tout de suite, non?
C'était aussi une découverte. Moi, j'avais ma petite expérience de home studiste.
Ouais, donc, c'est ce qui t'a branché tout de suite.
Déjà, le truc qui m'a épaté, le premier truc en mettant les pieds dans un studio, c'est le gars appuie sur play du 24 pistes analogique et je vois derrière, il y avait un Atari ST à l'époque qui tournait avec un Notator ou un Pro 24 et le truc part en même temps. Et là, je fais waouh, c'était synchronisé quoi. Et ça, c'était un truc déjà de voir ça là, le truc qui part et la bande synchronisée avec le MIDI et les synthés qui tournent en séquence. J'étais là, oh là là. Ouais. Et donc j'ai posé la question, c'est quoi SMPTE quoi? Et on m'a filé la notice du Zeta 3 à lire. C'était le Zeta 3, c'était un synchroniseur de l'enfer à l'époque. C'est un rack nu avec un affichage de Texas Instruments là. Bon, c'est la machine la plus barbare. Et j'ai passé une semaine à lire ce truc en anglais, en plus, c'était l'enfer.
Le genre de truc que tu regrettes pas, quoi.
Les synchroniseurs, c'était la bête noire des assistants, quoi, parce que c'était vraiment l'époque où il fallait justement synchroniser un pneumatique avec de l'image et un 24 pistes analogique, ou plus tard à plus 30, différents magnétos digitaux ensemble, enfin, ou tout un système. Donc il y avait différents formats, et puis pour pouvoir faire en sorte que tout se régisse et soit synchronisé sous la même horloge, il y avait des états, des lynx, des machines de l'enfer, des assistants, tu vois, qui transpiraient, et il y en avait toujours un plus ou moins qui savait faire marcher, mais et puis on avait toujours des trucs à faire comme ça à 4h du mat après la séance, il fallait faire un report machin pour...
Il y a des trucs que, quand même, même si ça avait l'air un peu prise de tête comme ça, il y a des trucs que tu regrettes quand même, où tu te dis putain, à l'époque on faisait ce genre de trucs et c'était bien quand même, quoi. Je veux dire, c'est dommage que ça ait disparu, quoi. Non, globalement
ça c'était chiant.
Ouais parce que parfois c'est vrai que les contraintes techniques peuvent apporter aussi je veux dire, quelque chose artistiquement, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Oh bah c'est sûr, les limitations surtout de ce qu'est la technique des fois pousse à être créatif. C'est encore valable aujourd'hui.
Ouais.
On est souvent surpris des fois d'entendre des gens parler de la manière dont ils ont travaillé tel ou tel disque qu'on adore et être surpris par la pauvresse du matériel utilisé ou c'est juste qu'ils ont fait preuve d'ingéniosité, de qualité et de talent c'est souvent ça qui l'emporte sur le matériel lui-même. Souvent on est surpris de voir ah bon il a fait ça avec ça, ce truc que j'ai tous les jours devant moi et je suis incapable d'en sortir un son et il y a des gens qui sont formidables.
Et tu parlais tout à l'heure, on parlait du hip-hop et du début de cette période rap attitude où le hip-hop arrive en France. Moi, je me souviens aussi à l'époque à la télé, les Victoires de la musique, des mecs qui savaient pas du tout sonoriser le rap. En fait, les ingé-sons découvraient ça, quoi. Est-ce que c'est une carte que t'as pu jouer, toi, c'est-à-dire d'arriver au moment où arrive cette musique et de comprendre comment elle fonctionnait, comment la produire face à des ingés qui étaient plus anciens et qui étaient largués face à ce nouveau son qui venait des États-Unis ou
non, c'était plus global. Disons que il y avait essayer de comprendre un peu déjà. Comment faire un son l'idée de je vais faire tel ou tel son c'était au début c'était pas ça l'idée quoi c'était tiens comment ça marche surtout qu'est-ce qui se passe quand je branche là où ça va, est-ce que ça rentre dans ça, pourquoi ça sert à quoi un compresseur, pourquoi il me demande de mettre un compresseur, le truc il fait comme ça, ok ça sert à quoi, il le met j'entends rien, ça change pas, c'est pareil quoi, enfin c'est, ouais moins fort, enfin je sais pas Ça met du temps avant de. Après, une fois que tout le monde est parti, le mec, tu te dis, ah, il m'a demandé de brancher ci et de brancher ça. Pourquoi il m'a fait ça ? Tiens, je vais mettre la bande, je vais essayer moi aussi. Ouais. Enfin bon, ça met des plombes avant de. Donc après, l'idée esthétique même de comment on obtient un son et on le choisit, c'était complètement abstrait au départ. Ça vient progressivement. On prend conscience de ce que c'est. En fait, ce qu'on aime dans les disques qu'on écoute depuis toujours, qu'est-ce qui fait que ça nous plaît, justement, c'est parce qu'il y a la musique en soi, mais l'interprétation de l'interprète, mais la production aussi. Et ça, tout d'un coup, ça devient une réflexion qu'on intègre à ce qu'on fait tous les jours. Donc voilà, donc ça c'est en constante progression, puis c'est en côtoyant des gens talentueux qu'on démêle un petit peu le puzzle, quoi.
Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un instrument qui te donne des sueurs froides à mixer, par exemple, un que tu redoutes, celui que tu vois arriver dans un projet et tu dis « Oh merde, je vais en avoir pour des plombes ».
Bah, y a des instruments qui ne sont pas faciles à jouer et à enregistrer, genre la contrebasse, si c'est joué un peu...
Et pourquoi c'est une question bofement. De spectre, de dynamique.
Je pense que c'est un instrument qui demande beaucoup de contrôle et de dextérité à contrôler, et du coup, si c'est à moitié fait, ça sonne pas du tout, ça se barre en couille, quoi. Donc, quelque chose qui est de l'ordre du son de contrebasse mal géré. Et puis, quand c'est mal joué, des fois, c'est mal enregistré. Enfin bon, ça devient le cauchemar. On ne sait plus s'il faut mettre trop grave, pas assez serré. Ça peut rendre.
C'est à cette époque que vous connaissez ou
On s'est rencontrés début 2000 vers 2002, je crois.
Ouais, au studio de la Frette.
Au studio de la Frette. En fait, j'étais venu au studio de la Frette et c'est Denis qui accueillait et s'occupait de toute la rénovation du studio de la Frette, qui était le studio originellement personnel de Olivier Bloch-Lenné, qui a à un moment décidé de remettre en route son outil de travail qu'il n'utilisait plus. Et a demandé à Denis, en fait, de remettre la Nive et toutes les périphes qui étaient disponibles au studio de la Frette en route. Et c'est grâce à ça que ce studio a pu revivre un petit peu je dirais pas de ses cendres, parce qu'il était.
Il était pas ouvert, en tout cas. Il était ouvert aux autres.
Et donc, j'ai été un des premiers à m'intéresser à aller enregistrer au studio de la Frette.
Et là, c'est le coup de foudre.
Carrément.
Leurs regards se sont croisés.
C'était sur un disque.
Leurs mains se sont touchées sur le fader de la Nive.
Je sais même pas si ça s'est vraiment bien passé, mais.
Moi, je m'en souviens. Moi, j'ai un bon souvenir. C'était pour l'album d'un groupe qui s'appelait Overhead.
Ça me revient.
Voilà. C'est trop bien.
Très très bon groupe et très bon album.
Ouais, on s'était bien amusé. C'était.
Ce groupe avec une voix un peu bleue, bucklésienne.
Tout à fait, ouais.
Ouais, c'est ça. J'adorais ça. Et à l'époque, t'avais déjà ton propre studio, c'est ça?
Non.
Tu l'as monté quand, ton propre studio? Il y a un moment où t'as
juste
décidé...
juste après... C'est quoi? Oui, c'est juste après, c'est dehors de un an et demi, deux ans après.
D'accord.
Mais
qu'est-ce
qui t'a fait ? C'était pas mon propre studio, en fait. C'était l'idée d'avoir un univers un petit peu mobile et rendre possible le fait que je puisse m'installer dans un endroit lambda pour faire des enregistrements additionnels, parce qu'il manquait toujours un petit peu de temps sur les projets sur lesquels j'étais. Puis des fois, c'était un peu serré en termes de budget. Donc, du coup, c'était possible technologiquement de se dire voilà, il y a le Pro Tools dans la caisse, les
machins,
on peut monter avec 2-3 préamps et 2-3 compresseurs.
Parce que c'était certains artistes que tu avais du coup à plus 30, c'est ça, si je comprends bien, et qui avaient d'autres besoins, c'est
non,
ça.
Non, j'étais devenu freelance en fait.
Oui, voilà, d'accord.
Je suis resté à plus 30 jusqu'en, je sais pas, 96.
D'accord.
Après, je suis parti en freelance, donc j'y venais travailler en freelance, mais.
Ouais, d'accord. Ok.
J'étais plus associé au studio plus 30.
Ok.
Et toi, donc, t'étais résident là-bas
Moi, j'ai dû arriver en 99, donc 2-3 ans, effectivement, avant. Avant, je travaillais pour Fairlight, la compagnie Fairlight. Qui faisait autrefois les sampleurs, et Olivier Beuglenet était le représentant Fairlight aussi en France.
Fairlight qui a été racheté par les mecs qui font par Blackmagic, non?
Ouais, c'est ça, mais je crois que c'est même terminé maintenant.
C'était pour avoir les brevets.
Ouais, c'est ça. Ils ont racheté. Mais moi, à l'époque, ils faisaient plus de sampleurs, mais c'était quand même une boîte mythique.
Enfin, oui, bah, oui, grave.
Je suis arrivé, il y avait des Fairlight par terre qui traînaient.
Le truc qui valait le prix de 4 maisons.
Et c'est vrai qu'Olivier faisait de la pub, il faisait beaucoup de musique de pub dans les années 80. Il a fait pratiquement toutes les musiques de pub qu'on entendait à la télé. Les grandes, celles de Jean-Paul Goud, Vas-y Vaza, les Kodak, le voleur de couleurs, enfin des trucs de dingue. Parce qu'il avait justement les Fairlight. Et il avait surtout donc cette console, la console La Nive, qui était chez Barclay dans les années 70. Qui était un monstre incroyable, une vieille Nive magnifique. Et donc ce studio, c'était ça, c'était la réunion de vieux high-tech dans manoir, dans un parc. Et c'est vrai que moi, je commençais sur le tard, j'ai commencé à 29 ans à faire ce métier.
Ouais, mais comment...
comment c'est passé du coup?
Bah, à 29 ans, je travaillais chez Fairlight, j'avais une position assez... J'étais technico-commercial, je m'occupais de l'Europe carrément, j'avais une position un peu élevée. Et puis je me suis dit que je passais à côté de ma vie. J'avais toujours eu envie de faire ingénieur du son. Et puis, comme j'avais déjà travaillé à la frette, mais pour Fairlight, pas pour les séances, donc je lorgnais un peu sur les séances, je regardais. Ouais. C'était un studio qui était vraiment fermé à l'époque. Et quand Fairlight m'a dit « Maintenant, tu peux devenir technico-commercial pour l'Europe », là, j'ai fait « Ah non, ça va pas être possible ». Et je me suis barré, j'ai liquidé un beau salaire pour me retrouver à ranger des câbles à la frette.
Saltimbanque dans l'âme, quoi.
Voilà, j'ai rappelé Olivier, j'ai dit « Je crois que j'ai... » Il me disait « Je cherche un assistant ». J'ai dit « Ben voilà, t'as trouvé, c'est moi ». Et je l'ai pas regretté, puisqu'effectivement, j'ai rencontré plein de gens. Et puis ça a été... c'était une passion que je voulais absolument... J'ai fait ça pendant 10 ans, c'était vraiment une passion.
Et puis que Fairlight, c'est fini, donc je sais pas où tu serais maintenant.
Ouais.
Non, je vendrais peut-être des caméras. Ou des
photocopieurs chez Canon. Ça fait rêver, quoi.
Ouais. Ouais. Bon, le chat va bien, Momo ?
Oui, ça va.
Oh là là.
Fallait que je démute, ça, déjà.
Ah, parce que j'explique aux gens, nous, on voit pas le chat. Hein, on voit pas le chat. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poster vos
si
petits messages.
C'est chiant, dites-le.
Ouais, voilà, hein, si vous faites chier, bon. Écoutez, on va poursuivre. On reviendra à vous, hein, évidemment. On va poursuivre avec le blind test, si je trouve le jingle. Alors, blind test, nouvelle formule des pieds dans le patch. C'est un blind test que j'ai concocté tout seul, parce que d'habitude on faisait un peu ça tous ensemble. Donc là, le thème du blind test, c'est... Alors, regarde pas mon iPad, Denis. Attention, je te vois, tu veux tricher.
Comment ça triche?
Donc c'est, on était parti sur Alf, l'alien, espace et science-fiction. Donc voilà. Donc je vais balancer un son, et puis vous pouvez jouer sur le chat aussi. Momo aussi, tu peux jouer si tu veux. C'est open.
Enfin, Momo, vu qu'il a une seconde de latence quand on lui pose une question,
c'est vrai,
je pense
qu'on
est peinard.
C'est le temps de démuter, c'est très long.
Exactement. Bon, alors je vous préviens, c'est des trucs plutôt easy. Hein. Donc il va falloir aller vite. Ok ? Allez, c'est parti, premier extra.
C'est du Rod.
Jamiroquai.
Ouais. Il y a eu. Bon, bravo bravo, je donne le point à Stéphane, c'était le premier.
Ah bah oui, il est très fort, Stéphane.
Ah non, bah un point Stéphane. Et là, on compte les points maintenant, ça rigole plus du tout. Bon, il n'y a rien à gagner, mais on compte les points. Un point Stéphane, très bien. Allez, deuxième extrait, c'est parti.
Allez, David Bowie. Ah,
je l'ai mal dans le. Ouais.
Ah la vache, je suis à droite.
Il est super loin.
Il est en phase. Ouais, bon, David Bowie.
Bon, bah, deux points Stéphane, toujours très rapide Stéphane.
Il est fort David.
Il est fort David. Ouais, il est très fort David. Allez, troisième extrait, toujours sur le même thème, c'est parti.
Oh, je connais ça, merde. Ah, c'est quoi ça?
Spaceman, Babylon Zoo. Babylon Zoo, un point Arnaud, deux points Stéphane, bravo. Sur le chat, on a trouvé. Bon, bah, un point le chat alors. Je te retire le point.
C'est dégueulasse.
Ouais, c'est dégueulasse.
Oui. C'est dégueulasse. Non, bah, un point le chat, un point Arnaud.
Je dois dire qu'ils ont tout trouvé.
C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est pas. Ça va. J'ai été gentil, hein, franchement.
C'est vrai que c'est assez simple.
Allez, on continue. Ça va être très rapide aussi.
Sting, Englishman New York.
Englishman.
Exactement. Bon, alien, même si ça veut dire étranger, je sais, mais bon, voilà.
Oui, d'accord, ouais, parce que là, j'étais pas...
Ouais, je sais. Non, mais ça va être pire après.
Ah ouais, d'accord.
Allez, prochain extrait, c'est parti.
Surfing with Alien, oh, Joe Satriani.
Bravo.
Ah, ouais, je n'entends même pas les morceaux,
non,
excusez-moi.
Non,
mais...
non, j'ai entendu...
Non, mais là, il a été très, très rapide.
On a un fan de Satriani, là.
Bah, en fait, j'en suis pas fier, mais à 17 ans, j'écoutais ça. Voilà. Et je me disais, oh putain, il joue plein de notes, c'est
Allez,
trop cool.
C'est l'instant confession, ma vie, Arnaud, tu veux nous en dire plus.
Il joue plein de notes, c'est
bah,
bien.
Ouais, bah, puis un jour, tu veux des amis, et puis t'écoutes d'autres disques, quoi. Mais,
voilà, c'est, exactement. C'est, voilà. Donc, deux points Arnaud, deux points Stéphane. Dernier extrait.
Je t'aime à l'italienne, Frédéric François. Italienne. Oh.
Italienne,
d'accord. Bravo.
Ça va chercher loin. Ils l'ont le chat, ça. Frédéric François, hein, vous l'avez ça? Non, bon alors, voilà.
Voilà, ils l'ont pas là.
Taisez-vous.
Vous avez quand même un auditeur, un lectorat assez jeune, non? Il dépasse pas 70 ans quand même.
Après, ouais, c'est normal
qu'ils connaissent pas.
A priori, ils ont notre âge.
Rien, nous on connaît. On n'est pas si vieux, quoi. Je sais pas.
On aime en plus.
Bon bah Arnaud, t'as gagné. Bravo Arnaud. T'as
ah bon, c'est
le
pas
droit d'avoir gagné.
Bravo Arnaud.
Ouais, non, il a appelé. Ouais, ça s'est joué sur le
finish. Sur le finish,
ouais. Bravo.
Sur le finish, effectivement. Bon, bah écoutez, on va passer au.
Je sais pas si c'est une fierté d'avoir gagné là-dessus.
Satriani, bah.
Parce qu'en général, moi, tu mets un Dylan, je reconnais pas, mais par contre, tu mets une merde des années 80, là, je t'ai fait.
Exactement. Ouais, t'as gagné, mais bon. Ouais.
Gagner, c'est gagné. Hein.
C'est c'est clair. Allez, les news. Alors, bah justement, Arnaud, tu voulais nous parler de miel avec nectar et de crêpes pour la chandeleur, c'est ça?
Non, pas du tout. Non, je vais vous parler effectivement de de nectar et du nouveau micro de Chandler. Alors voilà, je fais coup double parce que j'avais qu'une news, mais je vous en mets deux pour le prix d'un. Donc coup double ce mois-ci avec d'un côté un statique large membrane. Tu peux lancer la vidéo sur le Chandler Momo.
C'est parti.
Qui nous promet d'avoir le son Abbey Road parce qu'il émule le micro certains feeds d'une vieille console EMI. Voilà. Alors ce qui est drôle sur
ça donne les lunettes jaunes hein, quand même. Faut le dire.
Ça ressemble à un thermos à café, mais bon, c'est joli, c'est un micro. Et puis tu peux passer sur l'autre parce que c'est pas très intéressant de voir ce monsieur. Voilà.
C'est un micro à lampe. Il y en avait deux derrière d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. L'autre, c'est Nectar 3. C'est une tranche vocale.
Attends. Tu veux pas juste faire réagir sur le Chandler?
Alors attends,
tu veux revenir après?
Ouais, je vais revenir après. C'est une tranche vocale logicielle signée Isotope qui nous promet non seulement de générer toute seule des presets après analyse de la piste voix, ce qu'ils appellent du preset adaptatif, mais aussi de réaliser automatiquement un démasquage de cette dernière en interagissant avec les tranches neutrons qui sont insérées sur les autres pistes. Donc le mixage automatique, on va dessus, en gros. Et du coup, voilà, je trouvais ça intéressant de mettre ces deux infos côte à côte, parce que entre nostalgie rétro pour un studio qui doit surtout sa réputation au génie qui ont travaillé, hein, parce que sincèrement, c'est pas le son des albums des Beatles qui est le plus passionnant aujourd'hui. C'était génial pour l'époque, mais bon, c'est surtout les chansons qui sont passionnantes.
Tu vas le vexer, Greg. Oh là là, tu vas le vexer là.
Non, mais je pense qu'il est d'accord.
Ah non, moi, les arrangements à la rigueur.
Oui, voilà. Bien sûr.
Oui, c'est compos,
c'est son writing et tout. Après, bon, la qualité de la prise de son, ça a vieilli. Hein. C'est l'enregistrement des années 60. Et le fantasme futuriste où la machine tente de se faire toujours plus intelligente pour assister ou remplacer l'homme. Bah moi, j'étais curieux de savoir ce que vous pensiez de ça. À la fois de ce côté vintage où on essaye de nous vendre des bouts de.
Qu'est-ce qui vous parle le plus entre ces deux trucs assez opposés, on va dire?
Oh, le micro, moi je m'en sers plus, je fais que du mix maintenant, donc j'ai rarement l'occasion d'essayer des nouveaux micros. J'ai quelques-uns que j'utilise et puis j'utilise pas vraiment de nouveautés.
Pour l'auto-mix, c'est
intéressant. Les produits isotopes en plus sont généralement pas mal foutus. Ouais. Des fois, j'ai Ozone.
Ozone, ouais.
La version.
Il y a aussi un truc automatique, la dernière version.
Ouais, tout à fait, mais que j'ai essayé et c'est trop compliqué, j'arrive pas à utiliser, mais ça me donne toujours des résultats.
Sur un assistant, toi.
Ouais, pour utiliser Ozone. Donc, du coup, je le règle à la mano, mais à chaque fois que j'ai essayé, c'était pas hyper concluant, mais j'imagine qu'on puisse avoir de bons résultats. En fait, il y a quelques temps déjà, j'étais en relation avec le Sony CSL, en fait, qui est un labo de recherche, notamment en intelligence artificielle. Ils avaient une partie dédiée à la musique et ils avaient mis au point un logiciel de composition automatique. Et en marge de ça, il y avait une personne qui s'occupait d'un système d'automix. Ouais. Et j'ai écouté un petit peu les résultats qu'il pouvait avoir, notamment sur certains bancs de test. Et ce que je trouvais pas mal, c'était d'un point de vue informatif. Par exemple, il mettait une session avec toutes les pistes vierges, non traitées, non balancées, et il faisait analyser ça par son système, et ça proposait quand même quelque chose, une information propre qui permettait d'avoir une lisibilité de ce qu'on avait, qui des fois n'est pas le cas.
Une mise à plat, quoi.
Voilà, une espèce de mise à plat, très propre, sans engagement véritable, qui pouvait donner un point de départ. Donc j'imagine qu'on est qu'au balbutiement de tout ça et que Isotope est dans cette logique, mais ça va aller de pair entre la composition, la production, le mixage. Enfin, c'est l'ensemble de toutes ces étapes en fait qui va être proposée de manière précétée. On va avoir finalement à définir des voies, des règles, des intentions. Peut-être que le musicien du futur sera quelqu'un qui mettra une note d'intention et qui
On avait reçu ici le gars qui fait Orb Composer, qui est un logiciel de composition basé sur l'intelligence artificielle, là pour le coup. Et en fait, se pose déjà le problème des droits d'auteur. C'est-à-dire quand c'est l'ordinateur. Et en gros, c'est l'utilisateur qui a lancé. Qui s'est servi du logiciel, donc qui a les droits d'auteur.
Il le paramètre quand même un peu.
Il
fait quand même une action.
Mais c'est vrai que ça peut être très léger. Hein. On sent que de plus en plus les machines elles sont capables de faire des trucs toutes seules. Alors c'est bien parce qu'il y a des algos qui font la musique, il y a d'autres algos qui les écoutent. Maintenant elles vont se démerder entre elles. Elles vont s'acheter des disques et tout. Elles vont se pirater la musique.
Surtout, il y a de plus en plus de produits qui sont vendus vraiment clé en main. Je sais pas, les banques natives qui sont vraiment avec une espèce de bande démo de ce qu'on peut faire avec la banque. Tout est précété avec les effets, les machins.
T'appuies sur une note et c'est ce qu'on a fait pour le générique de l'émission. On a appuyé sur une note, ça fait le générique.
Ouais, voilà. Parfois,
je n'ai pas honte. Voilà.
Mais j'imagine que pour les gens qui travaillent dans la publicité, enfin, il y a plein de choses qui sont pas de la création pure où l'humain va exprimer le profond de son âme, qui pourrait être intéressé pour avoir quelque chose d'efficace.
L'illustration musicale, notamment les jingles en radio, c'est des trucs où faut faire ça très vite. Souvent, le budget, il est rikiki. Le délai, c'est il me faut pour apprendre moi coco. Donc, fatalement, quand il y a un truc qui fait la blague très vite, bon, voilà.
Ouais, et puis il y a des musiciens humains qui font des musiques pas terribles.
Ouais, 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 c'est vrai, c'est
humainement,
vrai.
Humainement.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais, Francis Lalanne. Et donc, t'en penses quoi, toi, Denis?
Moi, je suis assez.
Francis Lalanne.
Des news d'Arnaud, t'en penses quoi?
Bah, c'est marrant parce que je trouve que c'est intéressant parce que je pense qu'avec Otto, on est un peu dans cette démarche de proposer un produit qui, à la fois, a un côté vintage, donc s'intéresse à, on s'intéresse à ce matériel quand même. Il y a un son, il y a un grain, et en même temps, on fait pas du vintage, on fait aussi des machines, mais on fait pas non plus ce qu'on pourrait faire en 2018, des produits avec un écran tactile, tout numérique. On fait aussi une espèce de machine presque d'un temps parallèle qui utiliserait une technologie de 78. Qui sera en 2018, mais qui n'est pas non plus vraiment en 2018. C'est une espèce de truc qui n'a jamais existé. Donc, c'est marrant. Moi, j'aime bien, justement, qu'il y ait ces deux. C'était très, très bien vu. Donc, qu'il y ait ces deux écarts, finalement. Il y a aussi des gens qui, actuellement, font des pédales avec des bords en bois, des vieux boutons, je ne citerai pas le nom, de synthé américain, des choses assez vraiment typées vintage, des lampes, etc. Il y a des trucs très modernes qui sont très intéressants. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu, justement, entre deux. Et c'est marrant, d'ailleurs, ce qui serait drôle aussi de tous ces logiciels, c'est d'essayer de voir si on les paramètre n'importe comment, on les réinjecte dans eux-mêmes pour voir éventuellement choses rigolotes.
Mais c'est ça qui va être dément, ça va être de les détraquer.
Voilà,
ça va être ça notre rôle.
Ce qui est très drôle, c'est que. Ce qui est très drôle, en tout cas, sur l'histoire d'Abbey Road, c'est que moi, j'ai rien contre Abbey Road. La salle est sans doute pas dégueulasse. Mais j'allais dire, tout ce qui fait la renommée du studio, c'est pas tant les murs du studio, c'est pas tant le studio lui-même. C'est les groupes qui sont passés, qui eux étaient géniaux. Mais ils auraient pu enregistrer dans un autre studio, que c'est l'autre studio qui aurait été génial.
Ah, même le nom Abbey Road, alors qu'il s'appelait EMI à l'origine, fait ils sont appelés Abbey Road juste parce que les Beatles ont sorti un album qui s'appelait Abbey Road, qui se trouve être le meilleur album de tous les temps.
Et du coup, c'est très bizarre ce qu'on vend dans ce genre de marketing, finalement. C'est
en tout cas, t'as vu le commercial qui arrive à parler de ses produits quand même. Même pendant le franchement.
Placement produit.
Il a raison.
Donc, il y a trois produits qui ont été présentés ce soir.
voilà.
On a une question de Nadège sur Facebook qui nous dit aujourd'hui à quel point mixes-tu in the box avec Pro Tools ou avec du hardware en périph?
Un petit peu des deux. Enfin, surtout in the box et avec un petit nappage analogique.
D'accord. Tu dis quoi comme nappage?
Bim bam boum, pourquoi?
Oui, ça peut, ouais. C'est d'ailleurs hyper convaincant à chaque fois. Mais c'est plus dans un univers, dans un moment de production que j'utilise les bim, les bam et les boum parce que j'aime bien l'idée de performance avec. Je trouve que c'est des machines qui permettent de performer. Donc, du coup, c'est intéressant d'avoir un moment où on appuie sur record et du début jusqu'à la fin, puis on crée une espèce de chose qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, mais en même temps ça va être imprimer ce moment qui va être intéressant. C'est comme ça que j'aime utiliser les machines que propose Denis. Non, sinon le principal, j'ai une petite chaîne sur mon master, j'ai un mélangeur pour splitter les sorties sur quelques voix et de temps en temps.
Quoi, c'est pour en analogique, c'est ça?
Tu refais de la sommation.
Alors ça marche vraiment ça ou pas? Parce que moi, je me suis toujours posé la question.
Oui, ça peut. Ça dépend des projets. Mais il y a des projets sur lesquels c'est plus convaincant que d'autres. Mais justement, d'accord, j'ai un sommateur de la marque Chandler, fait par Bobby, là, qu'on a vu tout à l'heure. Qui est très coloré, très EMI-like, Abbey Road style, et qui marche bien, enfin qui est une chouette couleur que j'ai depuis des années.
Donc c'est parce que ça rajoute une certaine couleur. C'est pas pour le côté.
Voilà, mais c'est une.
C'est toujours un peu flou, tu vois. Moi, les personnes qui me parlent de.
C'est aussi une philosophie qui évolue technologiquement maintenant avec là où on en est dans les différents systèmes de logiciels. On peut très bien se passer de mélangeur. C'était aussi une espèce de passage à un moment qui était délicat entre le studio sur lequel moi j'ai appris, c'est-à-dire la grosse console, le magnétophone, les périphériques. Puis après on est passé avec le Pro Tools, donc avec toujours la console, on savait plus trop s'il fallait faire l'automation dans le Pro Tools sur la console, c'était chelou, donc c'était un espèce de mélange un peu bizarre. Ensuite on s'est débarrassé plus ou moins de la console, on a acheté des périphes externes pour avoir un studio un peu modulaire en kit, quoi. Et puis l'étape finale, maintenant, ça va être l'ensemble à l'intérieur de la machine, ouais. Donc la machine qui est devenue la machine ordinateur, la ouais. machine toute puissante mmh. du studio. Et puis simuler différentes couleurs qui étaient mmh. disponibles à l'époque à travers des petites simulations.
Donc toi, tu continues quand même d'utiliser un sommateur. Tu mets quoi d'autre derrière après?
J'ai un petit EQ que j'utilise ou pas, okay. Qui me permet.
C'est quoi style d'EQ?
J'ai, il y a deux choses. J'ai un petit Telefunken W495, je crois.
Il connaît
ou 395, je sais plus. Enfin bon, et un Clarifonic aussi que ouais. j'ai. J'ai ça. J'ai un petit limiteur aussi, mmh. un Pendulum.
Ouais. Et ça, voilà, pour toi, c'est pas remplacé. Tu pourrais pas le remplacer par un.
Si,
par
en vérité, je pourrais, si, mais ouais. Je me sers aussi du fait de passer l'ensemble du multipiste en analogique pour ressaisir tout ça dans un autre ordinateur qui est mon ordinateur qui va saisir ce que je vais donner ensuite à l'ingénieur de mastering.
D'accord.
En 96 kHz, en fait.
D'accord.
Ah, ok.
Ah ouais.
Donc ça me permet via une. Un passage en analogique ah. et un aboutissement
l'esthétique.
Je fais un bounce sur un autre ordi avec une autre fréquence d'échantillonnage, donc qui restera toujours la même. Ouais. Je serai pas dépendant de la session sur laquelle je travaille, qui pourrait être en 44, 48, ouais. Enfin n'importe quoi. Je reçois de n'importe quoi.
C'est quoi? C'est pour le côté c'est pratique.
C'est
vraiment...
pratique parce que sur l'autre ordinateur, par exemple, quand je mixe un album, je peux avoir l'ensemble des morceaux que j'ai déjà mixés qui ouais. sont à portée de main. Donc, je peux éventuellement les comparer par rapport à ce que je suis en train de faire ouais. là, dans l'idée d'avoir quelque chose d'assez homogène. Et,
oui, et puis comme ça, t'as le truc vraiment MAO, dédié MAO.
Et puis j'ai mon enregistreur de pistes
d'un côté. Ah, c'est marrant, c'est la première fois que j'entends ça. Mm-hmm. C'est excellent. Cool.
J'ai toujours fonctionné comme ça, c'est plus clair, puis c'est l'équivalent de ce qu'on trouve au studio.
Le 24 pistes et puis le 2 pistes.
Exactement,
pour
c'est exactement la même chose.
Après, produit, vous, hein. C'était Guillaume Pi, que vous connaissez sans doute, qui est venu le mois dernier et qui nous disait que selon lui, bon, il pensait que d'ici à les maxi 10 ans, les amplis à tube en guitare tomberaient... au niveau modélisation, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura plus de différence
entre un ampli modélisé et un vrai.
Lui dit, oui, on commence. C'est vrai que c'est un truc que vous avez ressenti, cette progression qu'il y a sur les algos, sur la modélisation.
Déjà dans le mixage, effectivement, c'est vrai que les sommateurs sont arrivés aussi à une époque où quand on mixait dans le Pro Tools, c'était pas terrible.
Ouais, ouais,
c'est-à-dire
ouais.
qu'il n'y avait pas du tout cette dynamique. Oui, dès qu'on baissait certains niveaux, il devenait. Donc c'est vrai que là, ça a bien progressé sur du 64, du 32, et même les moteurs des produits professionnels qui n'étaient pas les meilleurs d'ailleurs en mixage, les Pro Tools, il y en avait des mieux, mais c'est vrai que Pyramix par exemple marchait plutôt pas mal et là ça a bien progressé donc c'est vrai que maintenant déjà on arrive à simuler, on a tellement d'amplitude numérique qu'on arrive même à simuler des mixbus de Harrison, de Neil, etc. Ce qui était totalement pas possible il y a encore 10-15 ans, où on avait même le son d'un mixeur in the box et un qui sonnait même plus ou moins bien.
Puis ce qui est génial aussi, c'est les nouveaux outils, c'est les outils qui recréent pas quelque chose qui a déjà existé, mais qui propose quelque chose de nouveau, qui permet d'éclater, parce que le son, l'esthétique même de qu'est-ce que c'est le son produit aujourd'hui dans la pop musique, il a complètement changé. C'est plus du tout les mêmes rapports, c'est pas la même esthétique.
Votre point de vue à l'un à l'autre sur un truc comme Mélodine par exemple, c'est
parce que nous on est des gros adeptes, on sait pas bien chanter donc sans
moi,
ça on est mort.
Ça marche super bien, c'est un des meilleurs algorithmes.
Mais en même temps c'est beaucoup plus permissif parce que ce qui est assez drôle, moi ça m'a surpris l'autre fois d'avoir écouté des vieilles si des années 80 où t'entends François Valéry et le mec en fait il chante juste en fait et c'est hallucinant et à l'époque c'était pas possible de pas savoir chanter juste. Ouais. Aujourd'hui, c'est facultatif de chanter juste.
Ouais, mais même de chanter, enfin, c'est aujourd'hui quand on est chanteur, ce qu'on a à vendre, c'est pas forcément de la musique en premier lieu, c'est un ensemble, on n'est plus à proposer de la musique, les gens qui proposent juste de la musique, ils sont dans des cases un peu particulières et les artistes populaires, ils sont au-delà de la musique, ils sont des personnages.
C'est
on est dans autre chose quoi.
Ouais. C'est un produit global.
Voilà, exactement. Bon, c'est peut-être un peu triste hein, d'ailleurs, parce que moi j'aime la musique avant tout et j'aime l'idée d'en faire et de que ça soit vraiment le sujet. Mais
c'est vrai que maintenant sortir de la musique sans clip, ça paraît que c'est impossible, j'ai l'impression. Je veux dire, il faut obligatoirement un clip quoi. T'es sur YouTube, il faut un clip quoi.
Mais en même temps, je pense que ça a toujours été. On aimait certaines idoles parce que justement elles n'étaient pas comme le voisin d'à côté quoi.
Oui, il faut un clip, il faut une histoire, il faut, sur les réseaux sociaux.
Les clips, ça fait longtemps que ça existe, mais même pour les petites prods, maintenant, il y a un clip, quoi. Enfin, moi, ça me fait halluciner. Parfois, je vois des clips qui, franchement, bon, après, je suis pas un as en vidéo, hein, ça se voit, mais je vois des clips qui ont de la gueule, alors que la musique est toute pourrie. Mais en gros, les clips, ça a de la gueule, quoi.
Que les outils aussi ont évolué pour l'image, au même titre que c'est de l'audio.
Heureusement qu'il y a eu le clip pour que certains groupes vendent des disques, hein, parce que sinon ça aurait été chaud pour certains quand même.
On est la génération MTV aussi. Hein.
Je veux dire, MTV c'était déjà des artistes et des groupes déjà très installés, alors que maintenant c'est vrai que sur YouTube, avec YouTube, tu vois des groupes vraiment pas connus qui ont déjà des super clips quoi. Tu vois, en tout cas des clips super travaillés.
Je suis très étonné en tout cas que, enfin c'est là où on voit qu'on n'est plus vraiment dans l'artistique, dans l'industrie du disque. Je suis très étonné en tout cas qu'il y ait si peu de refus du clip chez les artistes. C'est-à-dire quand je dis refus du clip, c'est-à-dire un peu ce que faisait Noir Désir. Il disait nous on fait un clip mais c'est 5 000 euros, on fait un clip pour 5 000 euros et basta quoi. Donc oui, vous avez une image qui bouge pendant 4 minutes, mais en fait t'as l'impression que tous les artistes ils disent oh, ok, on va faire un clip.
Je pense que comme il faut avoir tant d'abonnés ou tant de vues sur YouTube pour pouvoir être signé après, du coup il faut faire un clip.
Là où on voit que les artistes sont quand même des gens, les artistes sont très dociles. Disons que ils sont dans une industrie et ils se plient aux contraintes de cette industrie.
Bon, en tout cas, on est bien parti loin de la news là, mais c'est cool.
Pardon.
C'était super intéressant. Du coup, Esther, toi, tu voulais parler de feu de poubelle, c'est ça, et de Jimmy Page qui change de crèmerie. Grosso modo.
Maman, envoie la vidéo de Dumpster.
Dumpster. Tu t'es trompé.
C'est pas grave.
Il a mis Dumpster. C'est bon.
C'est beau, hein?
C'est
beau. Ouais. Le problème, c'est que, en fait, on sait pas trop ce que c'est. Alors, on les a découverts l'année dernière avec Backmask. C'était un effet chaotique qui était complètement barré. Et ils viennent de remettre ça cette année avec Dumpster Fire, qui est un plugin qui a l'air tout aussi destructeur surtout. Moi, ce que j'aime bien chez Freak Show Industry, c'est leur plan de com. On sait pas qui ils sont. Leur site est complètement lunaire, il n'y a aucune info dessus. Des plugins sont obscurissimes.
Oui, c'est un teaser de plugin.
Expliquer aux gens, c'est un teaser.
Donc les vidéos, effectivement, sont totalement délirantes. Ils vendent un plugin par an à celui-là, je crois qu'il coûte $20. Ce sont des vrais ovnis, des ovnis sur le marché du plugin aujourd'hui. Et puis, ce Dumpster Fire, donc il fait des trucs destructifs. Comme on dit, si c'est inutile, c'est que c'est presque indispensable.
À la fois, c'est ça qui est marrant, c'est pas inintéressant, c'est que je trouve que leur plugin, c'est un peu comme d'acheter un disque, c'est-à-dire c'est tellement une expérience en soi, c'est-à-dire t'achètes le truc, c'est vraiment pas cher.
Tu sais pas ce qui va t'arriver.
L'interface, tu découvres l'interface et tu découvres ce que ça fait au fur et à mesure, t'es jamais sûr de comment ce que ça fait, c'est presque une expérience artistique en soi.
C'est une expérience aussi.
Faut aller sur le site pour voir à quoi ça ressemble.
En tout cas, on a envie.
Mais l'interface, c'est des bouts de vidéo comme ça. C'est super bizarre en fait.
Ça bouge quand on bouge les potards.
Et tu sens que à l'intérieur, t'as 225 000 LFO qui triquent des trucs.
Mais le dumpster là, on a aucune véritable info en fait encore dessus.
Non, il est sorti. Hein. Vous pouvez même télécharger une version d'évaluation.
C'est vraiment
maintenant, tu sais pas ce que ça fait.
Le tout premier,
c'est destructif.
Le tout premier, c'était un truc. Leur premier plugin, je crois, c'était un truc qui faisait des ralentissait inversions. Des inversions. Mais c'était totalement, on pouvait pas prédire le comportement du plugin.
Vous êtes curieux de ce genre de truc ou
voilà, ça c'est les trucs quand on a deux heures à perdre et à la fin des bombes, ça, ouais, voilà, enfin un truc, oui. Oh, puis tu le jettes.
Non mais je pense qu'en sound design ça peut être super intéressant.
Ouais ouais, non mais quand ça lance les dés comme ça et puis qu'on sait pas ce qu'on va trouver, c'est toujours cool. Hein. Ça permet d'avoir peut-être avoir un résultat. Il faut arriver à ça, pas trop exigeant et satisfaire de ce qui arrive assez rapidement.
Exactement.
Alors bah oui et du coup Jimmy Page.
Alors je vais vous parler un peu de ma vie, tiens, allez.
Allez,
vas-y. Bah ouais, alors parce qu'en fait il y a longtemps dans ma petite chambrette de banlieue parisienne, j'ai écouté un morceau et je me suis dit que non seulement il fallait que je le chante parce que je chantais déjà, mais surtout il faut que je le joue à la guitare. Alors c'était pas Stairway to Heaven, non, c'était The Rain Song. Donc pourquoi je vous raconte ça? Bah oui, c'est le plus beau morceau avec Since I've Been Loving You, le plus beau je vous parle de Led Zepp parce que le groupe a vu le jour il y a bientôt 50 ans et que pour leur anniversaire, le custom shop de Fender va reproduire non pas une Gibson, bah ouais forcément, mais deux Telecaster. Merci. C'est les Telecaster que Jimmy Page a utilisé au début de sa carrière, comme on peut le voir Momo dans cette vidéo des Yardbirds qui a été enregistré.
Ah ouais.
Voilà. Merci Momo.
Oh, en plus c'est Long Train, Train Kept Rolling, c'est ça?
Et donc c'est un show télé qui a été en plus tourné à Paris. C'est assez rigolo. Donc là, ce qu'on voit, c'est la Dragon. Donc la Dragon va être produite. Celle-ci, il y a aussi la Mirror qui va être produite. Ça, ce sera donc pour 2019. On espère les voir au NAM. Ça serait chouette.
Ah ouais.
Ok.
Ouais.
Bon, on va terminer ces news. Moi, je voulais vous parler d'UVI, donc une boîte française, Cocorico, tout ça, qui a annoncé un truc original, une banque de bruit de pas, Walker, comme dans Walker Texas Ranger. Voilà, petit clin d'œil à notre générique. Bravo. On met les pieds où je veux. Et vas-y, balance la vidéo, Momo.
Là, il y a du son. Là.
Ah, génial, on peut choisir si...
Ouais.
Pas mal.
C'est le look.
Hi everyone, Garrett voilà. DiMartinez
là,
here with UVI.
Couper.
Today we're gonna look at Walker.
Tu peux couper John Michael.
Super, il est bien.
Ouais, donc alors évidemment, comme vous avez vu, c'est une banque de bruit de pas, donc ça se destine pas au marché de la musique, hein, mais plutôt à celui du son à l'image. Et on n'y pense pas comme ça, mais dans tous les films.
Encore que le début de Thriller. Hein.
Exactement. Est-ce que c'est.
Ouais, moi, ceux qui font des claquettes, peut-être, ça peut être intéressant.
Ouais.
Je pense qu'il y a des.
Si, comment il s'appelle
des gens qui vont faire
le clavier. Le clavier de Dream Theater, il peut le faire. Comment il s'appelle? Jordan Rudess.
Ouais,
tu lui donnes ça, bah, claquette, quoi.
Keith Emerson, à mon avis, vous faites des claquettes. Vous faites tous les standards irlandais en 3 secondes.
Donc, ouais, donc voilà, ça peut paraître assez incongru comme idée de faire une banque de bruit de pas, mais en fait, c'est vrai que quand on y pense, dans tous les films et quasiment toutes les séries, il y a des gens qui marchent. Hein. Sauf peut-être dans Intouchables ou encore dans le biopic de Philippe Roison, l'homme tronc qui a traversé la Manche à la nage. Mais là, c'est sûr, il n'y en a pas. Mais enfin, bon, tout ça pour dire que je trouve ça très intelligent de la part du VI de diversifier son offre comme ça. D'autant plus que la banque a l'air très complète, avec beaucoup de samples. Il y en a 26 000 qui ont été enregistrés avec 3 paires de micros qu'on pourra modifier à loisir, hein, pas les micros mais les samples, durée du contact avec le sol, les frottements, l'effet de surface. On peut lui dire si on est en train de monter ou descendre un escalier, voilà, ce genre de choses. Donc tout ça pour aller du claudiquant Kaiser Soze au virevoltant Michael Jackson, en passant par le va-nu-pied Yannick Noah et mais pas par le roulant Christopher Reeves. Voilà, a priori. donc voilà, il y en aura pour tout le monde. Ouais, c'est exactement ça. Donc il y en aura pour tout le monde. Les Rodriguez, père et fils, vont bientôt devoir pointer à la NPE, moi je vous le dis. Hein.
Bah oui,
donc
c'est
voilà.
Ça, le truc. Hein.
Ouais, c'est les follets. Les follets, on appelle ça les follets.
Moi j'en profite pour pousser un petit coup de gueule quand même sur les AF1, parce que quand on a fait les news, il y avait des mecs pour rigoler gentiment autour du projet, puis il y avait des types pour dire mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est n'importe quoi, se faire ce genre d'instrument, qui s'intéresse à ce genre de conneries. Et voilà, et ce que j'expliquais dans les forums, c'est que voilà, le Invincible de Michael Jackson, c'est $30 millions le budget de l'album. Un épisode de Game of Thrones, c'est $15 millions. Donc en fait, ce qu'il faudrait juste comprendre, les mecs, c'est que l'audio, c'est une niche de l'audiovisuel, et que il y a sans doute plus de thunes à se faire pour UVI. Et si ça peut permettre à UVI de gagner de l'argent et de nous faire après de sampler d'autres instruments, de faire des choses pour les musiciens, et ben tant mieux. Et bravo.
Rose.
Oui, tout à fait, mais tout à fait. Bravo UVI en tout cas.
Donc en tout cas, ça coûte 99€ jusqu'au 19 octobre et après ça passera à 149. Donc si ça vous intéresse, et on me fait un petit signe de l'autre côté du bureau. Attention.
Juste
quoi.
Julien qui dit enfin le son d'une moon boot sur la moquette.
Ah oui. Il y a rien à remplacer ça quoi.
Et pour répondre à Vincent, le nom du plugin dont je parlais tout à l'heure, c'est Dumpster Fire et la marque c'est Freak Show Industries.
On va aller voir ça.
Voilà.
Ouais. Magnifique.
Donc Esther, bah écoute, ça va être de nouveau à toi parce qu'on va passer aux insolites. On va continuer à regarder des vidéos sympas, je pense.
Allez, soyons fous.
Alors, tu veux nous parler de quoi ?
On n'a pas un petit jingle ? Oh, bah, c'est dommage.
Les insolites avec Esther.
Super. Celle-là, faut la garder absolument. Je vais la mettre dans la prochaine émission. Ouais, il faut la garder celle-là.
Mettre une bande son derrière.
Mais je sais, t'es fou. Hein, je sais que tu es assez fou pour ça.
Eh ben, vous savez, en plus, ça tombe vraiment très bien ce que vous venez de faire parce que ça me fait penser à ce qu'on va regarder maintenant. Je vais vous parler de deux poules qui font de la musique classique ou comment maîtriser l'art du pouette.
Rien de plus normal. Le sérieux des mecs. Et comment il fait pour la hauteur?
Comment il change les notes? C'est du faux?
Il a une banque UVI de
poulettes. La nouvelle banque UVI.
Il a 100 poulettes.
Il a plus ou moins fort.
Il n'y a pas de mélodie, mais c'est balèze. Et je vous invite à aller voir les vidéos de ces deux jeunes qui s'appellent donc Brett Young et Eddie Chen. Ce sont deux virtuoses australiens parce qu'ils ont l'air complètement ridicules là. Bien que si vous avez un peu écouté, vous entendrez que le violon est quand même assez bien joué. Hein.
Oui.
Et en fait, ce sont deux vrais virtuoses du violon. Ouais. Et grâce à leur vidéo qu'ils ont lancée, ils ont lancé leur channel il y a 2 ans. Ils font des choses qui sont donc très rigolotes, et notamment ces vidéos de pouettes, de poulets. Il y en a plusieurs qui sont toutes excellentes.
Ouais, on se fait endorser par KFC, c'est clair.
Ils font.
Il y a des AFK qui vont se passer une super soirée là. Après l'émission, qui vont regarder des vidéos de poulets. Là,
bizarrement, personne ne réagit à ça.
Ils sont atterrés, les gens.
Ils sont en train de regarder les vidéos.
Mais alors, en dehors de ces bêtises qui sont pas si bêtes que ça, parce qu'il faut quand même maîtriser effectivement l'art du poète pour arriver à sortir des notes.
Ils font des
vidéos pédago qui sont aussi très intéressantes, et je trouve qu'ils réussissent une chose qui est pas forcément simple, c'est intéresser la jeune génération qui est sur YouTube à la musique classique. Ils ont été d'ailleurs les premiers à lancer une campagne de financement participatif sur Kickstarter pour pouvoir organiser une tournée international. Et ils ont réussi à lever plus de $50,000 en quelques heures. Et ils se produisent aujourd'hui donc sous le nom de Two Set Violin. Vous les trouverez sur YouTube et Facebook sous ce nom-là. Et ils tournent avec des orchestres, mais ils sont donc très très bons au violon, au piano notamment. Je dis notamment parce qu'ils jouent plein d'autres choses. Et leurs prestations sont aussi très très drôles, comme on peut le voir dans la vidéo que vous allez voir maintenant.
Mais ouais, c'est chaud. Je sais pas s'ils peuvent. En fait, ouais, ils appuient plus fort pour que ce soit plus.
Oui, moi je pense.
Ça.
Ouais,
ça me fait penser au mec qui fait.
En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il changeait la position des mains.
Non, c'est juste la force.
Non, je pense que c'est la force.
C'est chaud. Ouais. C'est chaud.
Momo, est-ce qu'on peut voir la deuxième vidéo?
Ah ouais.
Ok.
Ça doit être chaud niveau synchro, tu sais, de faire le geste de l'archer.
Ouais. Ouais, ouais,
tout en roulant du
comme plus, les batteurs qui arrivent à.
Ouais, c'est.
Ils s'emmerdent tant que ça dans les orchestres classiques, quoi. Pour inviter des gens.
Ah, la musique classique, elle est belle de nos jours.
Je pense qu'il faut, ouais, faut qu'ils arrivent à attirer des gens.
Non, mais s'ils arrivent à faire venir les jeunes, en tout cas, alors oui, parce que ils ont fait quelques concerts en Europe. Là, ils sont en train de faire une tournée aux États-Unis. J'ai regardé leur site internet. Toutes les dates sont pleines. Alors, c'est pas forcément des très 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 grandes salles, mais bon, voilà, ils tournent.
Je trouve pas ça très rassurant que ça soit plein.
Eh ben,
il faut les écouter. Mais écoutez leur en dehors de leurs histoires de poulet.
Non, mais passé
allez écouter leurs vidéos parce que vraiment ils sont très.
Ils jouent du poulinc. Voilà.
Moi, je sais pas. En tout cas, ce que je trouve intéressant, il y a pas très longtemps, il y a eu un article dans Le Monde où le mec qui fait chaque année les 10 ans, qui dirige tous les 10 ans une enquête du ministère de la Culture sur la pratique de la musique en France. Ce mec-là récemment expliquait dans Le Monde que la théorie du ruissellement culturel ne fonctionne pas en France. C'est-à-dire qu'on s'est dit on va mettre des salles de spectacle, tout ça, machin. Et on s'est rendu compte qu'il y avait finalement que les bourgeois qui consommaient la musique et que le peuple était coupé du milieu de l'art. Est-ce que il faut passer par ça pour retrouver, pour que certains, enfin la musique, par exemple classique, redevienne soit rendue au peuple, parce qu'à la base c'était un truc populaire, comme le théâtre autrefois. À l'époque de Shakespeare, le théâtre c'était le TF1 des Anglais, quoi. Voilà. Je sais pas.
Les podcasts c'est pareil. Hein, nous on s'est dit on va faire un podcast pour tout le monde et tout. En fait sur le chat il y a que des nantis. Allez voir, c'est n'importe quoi. Oui d'ailleurs le chat.
Ah oui alors moins 12 connexions.
Hein. Faut toujours un peu insulter le chat.
Il y a Nico, notre Nico, qui dit il nous faut une poule au bureau.
Ah mais grave, ouais. Grave. Ouais.
Si on peut avoir un site qui marche aussi, ce serait bien.
Et Loïc qui dit le son du poulet. Oh, le son du poulet est doublé.
Il était cassé dans le site.
Non, il y aurait pas.
Il demande si le son du poulet est doublé.
On s'est posé la question aussi.
Ouais. Ouais.
Ah. Ouais, mais j'ai regardé leurs différentes vidéos et j'ai pas l'impression qu'ils soient doublés.
Ouais, donc c'est la force. Non mais je vais en acheter. On peut acheter ce poulet.
Ouais, faut mettre l'adresse du site.
Je pense que Denis une vocation, commence déjà à réfléchir à la suite. Ouais. On pensait à un biscuit 2, mais non, en fait.
Ça va être
le chicken 1, quoi.
Alors si, j'ai Sylvain aussi qui demande où en est la vidéo de l'autoboom.
Ah là, oui, eh ben on l'a fini, mais voilà.
Il insiste.
Nous, en fait, on est un peu équipés en informatique. On vient d'acheter un Amstrad et je trouvais plus de disquette de pouce un quart. Donc on va le poster là bientôt.
D'accord.
On l'a fini, non, okay. Fini.
Ouais. Vous avez des vrais fans hein, sur le chat. Ouais.
Ah, et puis c'est vrai qu'on communique pas bien. Enfin, ouais,
bon. Bah on peut pas tout faire. Hein.
Exactement. Voilà.
Merci.
Esther, tu avais d'autres choses à nous montrer, je crois.
Ouais, j'ai autre chose et là je vais taper un gros coup de gueule.
Allez, vas-y. J'aime quand tu tapes des coups de cœur.
Momo, est-ce que tu peux envoyer les photos?
Ah, c'est parti.
Ah oui, attention, c'est du lourd.
Dénonciation.
Ouais, c'est quoi ça?
Ça y est.
Alors, je sais pas s'il faut que j'utilise.
Alors, c'est quoi? Attendez, je vais poser une question. Qu'est-ce que c'est d'après vous?
Mira,
Stéphane,
c'est un truc pour se maquiller. Pour les chanteurs, pour pouvoir se maquiller.
Crois-tu?
Non, hein, ça en dirait.
Crois-tu? Qu'est-ce que c'est, Esther? Vas-y.
Bah, alors là, en fait, je sais pas s'il faut que j'utilise le mot, le hashtag balance ton misogyne ou ouais. Le hashtag prends les musiciennes pour des connes. Ce que je vais quand même, enfin, ça, c'est un peu le méga fail de la semaine. C'est les Chinois Midi Plus qui ont commis ça lors du Music Mass China. Ça s'appelle donc Mirror et contrairement à ce qu'on pense, c'est une interface audio.
D'accord.
Pour les femmes. Voilà.
Donc c'est fait pour les femmes. C'est voilà, comme le nom de cette belle demoiselle. Donc ça ressemble effectivement à une belle palette de fards à paupières d'accord. Avec un
en
miroir.
Fait, c'est les volumes. C'est les volumes.
Des potards, en fait.
Cela dit, c'est pas si mal comme look.
Non, c'est sexy, mais c'est abusé.
C'est totalement abusé. Ouais. Vous avez donc sur l'un des potards pour allumer la petite lumière pour se regarder quand on chante. Hein. J'imagine que ça doit être pour ça. Et puis quand on regarde la connectique, on se rend compte qu'il n'y a même pas de sortie principale. Hein. Il n'y a que deux sorties casse. C'est qu'on doit être vraiment trop conne pour pouvoir brancher deux câbles aux enceintes. Hein. J'imagine. Hein,
c'est lamentable.
Je me pose la question. Et en fait, l'annonce, elle a fait un tel tollé sur les réseaux sociaux, et je suis d'ailleurs bien heureuse d'en parler ce soir, parce qu'il ne faut pas déconner quand même, que la marque a fini par retirer la page produit de son site.
Ah.
Ah bah ouais, ouais.
Ouais,
ah,
donc bonne nouvelle quand même.
Faut pas abuser. Donc, alors Midi Plus, c'est pas le premier fabricant qui s'adresse aux femmes musiciennes comme si on était.
Je pense que tu peux jarter.
Des jolies décérébrées, hein. Donc à cela. Et puis, il y a vraiment, c'est l'époque. Parce que hier soir, en regardant Facebook, comme ça, je suis tombée sur la page de Soundspot qui fait des plugins. Ouais. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir, cette photo, parce que elle montre une très jolie demoiselle qui, à mon avis, est plus faite pour aller jouer dans des films à caractère du samedi soir de l'époque où il y a le premier samedi du mois sur Canet, il se passait des trucs.
Voyons ce que tu veux dire.
Qu'à faire la belle au milieu de guitare dans un très très beau home studio d'ailleurs. Voilà, donc
ouais, tu m'as montré cette photo, c'est abusé.
Je sais pas si la période est à la. Je redonne le nom Soundspot. Allez-y sur Facebook franchement, faites-vous plaisir, c'est honteux.
C'est un plugin pour femmes, c'est ça
Non,
c'est une photo de home studio avec une actrice porno qui trône au milieu. Il n'y a pas d'autre mot.
Une scène comme il arrive toujours. Ceci dit, je sais, parce que j'ai un pote qui avait fait un stage dans un studio d'enregistrement et il se trouve qu'il tournait vraiment des films porno en fait dans ce studio. Voilà.
Ah mais c'est peut-être le cas de cette demoiselle, mais
il y a une crise du studio, il y en a pas mal confirmé, il faut bien qu'il devienne un truc ces studios à un moment.
Mais là c'est même pas un studio, hein, c'est un home studio. Donc à Midi Plus et puis à Soundspot à ces gens-là qui donc ont des idées magnifiques pour nous mettre en valeur. J'ai envie de leur dire qu'on n'est juste pas là pour montrer nos boobs et puis remuer nos fesses dans des strings. Hein. Et puis je vais les embrasser en leur envoyant une bonne dose de Tash Sultana pour qu'ils comprennent un peu ce que c'est que la musicienne.
Voilà, faut pas la chercher Esther.
Faut être un peu con pour se brouiller avec un homme sur deux est une femme sur la planète. Donc il faut être un peu con pour se griller avec 50% de sa scie potentielle. Quoi.
Juste avant Tash Sultana, il y a Deltan qui dit pour une chanteuse qui se maquille la voix à l'autotune, ça peut se concevoir.
Il n'y a pas que les femmes qui se regardent dans les miroirs quand ils chantent. Hein.
On a
vu des chanteurs, moi j'en ai vu qui
se regardent. Il y a des mecs qui ont acheté ça.
Mais bon, effectivement, c'est très sexiste, ça, on est d'accord.
Exactement.
Bon, j'envoie Tash.
Voilà.
Voilà, on peut aussi faire ça. Merci, bonsoir.
Voilà, parce que je me disais, qu'est-ce que c'est génial, ça, c'est pas insolite du tout. Ok, bon, écoute, merci Esther. On va passer aux citations. Ah, les grosses têtes. Hein. Ah, Philippe Bouvard. Un peu funky, les grosses têtes. Un peu funky ici. Les citations. Donc, on va vous donner des citations d'artistes. Alors, on a choisi des artistes français. Je ne sais plus pourquoi. Tu te souviens pourquoi on a choisi ça ?
Pourquoi on a choisi des artistes français ?
Parce qu'on est français, peut-être.
Ouais, mais bon, ça arrive souvent d'avoir des Français ici.
C'est vrai qu'en général, on soit assez peu de Californiens.
Quoi qu'il en soit, on a choisi des citations d'artistes français. Donc, écoute, Esther, tu veux commencer justement ? Honneur aux dames ? Non. Allez, vas-y. Donc, tu vas nous dire une citation. Donc, tu veux nous donner un indice avant ou tu balances?
En fait, on choisit des artistes français surtout parce que chaque mois, Grégoire nous sort du Noël ou du Liam Gallagher. Il fallait trouver une règle pour l'empêcher de nous sortir des citations de Noël, même si ce sont des grands penseurs de notre temps.
Oui, il faut dire, c'est toujours exceptionnel.
Donc, excuse-moi, Esther, je t'ai interrompu.
Non, du tout. Je vous donnerai je sais pas si je vais avoir besoin, en fait, de vous donner un indice. Alors j'y vais. Mon album est sinistre, inaudible et chiant. C'est mon meilleur.
Murat, non.
Sinistre, inaudible et chiant, c'est mon meilleur.
Non, parce qu'il aurait rajouté mauvais, je pense.
Allez, un petit indice. Un homme, une femme.
Un homme.
Mort, vivant.
Et Stéphane, je crois que tu as travaillé avec il n'y a pas très longtemps, ou tu travailles encore avec.
Ah,
Ah.
Ah.
Ah, ah, ah. Un autre indice. Vieux, jeune.
Éternellement jeune. Non.
Ah, oui, éternellement jeune.
Le chat, le chat dit Dao.
Dao, et ben le chat a trouvé.
Ah, c'est vrai, bravo
c'est,
le
c'est
chat.
Bertrand. Bertrand, bravo Bertrand.
Je retire ce que j'ai dit.
Alors attends, répète la citation, il a dit quoi ?
Mon album est sinistre, inaudible et chiant, c'est mon meilleur. Alors, je sais pas duquel il parlait parce que.
Du dernier.
Un peu tous. Ouais,
j'imagine.
C'est toi qui as fait le dernier ?
Non.
Ah. C'est pas mal. Allô, Etienne, s'il te plaît. Bon.
Bon, allez, à toi, Arnaud.
Voilà. Alors moi j'aurais une oui enfin bon bref depuis
c'est
depuis
une drôle de citation.
Une dizaine d'années, les directeurs artistiques des maisons de disques sont des lopettes qui signent des lopettes. Ils craignent les personnalités fortes, donc globalement les artistes français ont une personnalité fadasse. Ça se sent dans leur musique et c'est désespérant. Ce sont des monsieur madame tout le monde, mais à un niveau, on a l'impression qu'ils ont été recrutés par Flaubert pour Bouvard et Pécuchet.
Alors,
Paul Naref, j'aurais dit Joe Star, mais la dernière phrose, ouais. Je sais pas.
Moi, je dirais Eddie Mitchell, non.
Ouais. Moi, j'aurais dit Paul Naref, mais non.
Non.
Ça aurait pu être un.
Sardou.
Non.
Jean-Louis Murat.
Oui.
Oh. Ah, bah alors, d'accord.
Alors,
one point.
Le chat.
Je
vous le dis.
Loïc disait aussi.
Loïc.
Je vous le dis juste quand même, parce que c'est vrai que, au moins, il a cette clairvoyance sur lui-même. Il a dit aussi au tirage au sort de la nature, j'ai eu le truc. Ego surdimensionné, je fais avec. Voilà.
Moi, c'est bien. Allez, à moi. Alors, attention. Je n'allais quand même pas me taper Julie Pietri.
Herbert Léonard.
Non.
Jean-Pierre Madère.
Jean-Luc Lahaye.
Ah,
bravo.
Ouais.
Attends, elle était déjà trop vieille.
Il l'interrogeait à propos d'une gamine, c'est ça?
Oui, j'imagine.
Oh là là, c'est chaud.
Allez, et puis une deuxième. Alors, je n'écris plus mes chansons parce que je suis mauvais. J'écris comme je parle. Alors, imaginez la suite.
Florent Pagny.
Ouais. Bien. Ouais. Il a dit mon summum, c'est presque qui roule.
Voilà. Ouais, c'était chaud quand même.
Esther, t'en as d'autres ou pas?
Ouais, j'en ai une petite, ouais.
Allez, vas-y.
Je vais mettre un bip au milieu parce que si je donne le nom, bah, vous aurez trouvé, donc ça, c'est un peu bête. Un jour, on a demandé à Gainsbourg s'il y avait quelqu'un de moins de 30 ans à statufier et il a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Ce serait bip, ce serait une immense statue en sucre d'orge et tous les enfants viendraient lui lécher les doigts.
Alors, faut deviner ce qu'il y a à la place du bip.
Oui, bah oui, vous aurez trouvé l'artiste. Bon, y a quand même beaucoup d'indices, hein.
Bah comment elle s'appelle, les sucettes à la nie, France Gall.
Ouais.
Ah, bien alors. Joué Arnaud, bien joué. T'en avais d'autres ou pas?
Je vous le dis, c'est encore Jean-Louis Murat parce que c'est vraiment un phénomène.
Ouais, c'est ton Liam Gallagher quoi.
Il dit toutes les musiques que j'aime, comme dirait l'autre crétin, elles viennent du blues. Clac.
Allez, bam. Et
c'est hallucinant, je suis tombé sur des propos d'une haine féroce. Enfin, je déteste pas le personnage, mais il désingue tout le monde quoi. Ouais.
Il avait défoncé Led Zeppelin dans une interview il y a quelques années. Ah, oui. Ça, j'étais outré.
C'est Orangina Rouge quoi.
Ouais. Il est terrifiant.
Ouais. Bon bah écoutez, on va passer à la suite. Moi ce que je vous propose, c'est peut-être de parler parce qu'il y a un petit peu d'auto hein, quand même, bah. Parce que c'est quand même votre truc à vous deux. On en avait déjà un petit peu parlé lors du Space Invaders, ouais. Mais bah écoute, j'ai envie de faire un petit catch-up. Quoi de neuf chez Auto quoi?
Alors quoi de neuf?
Depuis c'était quand le Space Invaders? C'était
ah
il y a,
oui,
c'était
en six... mars, non?
Ouais,
c'est ça.
Ouais,
alors
c'était
on a...
ça.
Bah on a presque fini la vidéo.
ça fait 6 mois qu'on est sur une vidéo. On avait perdu la bobine 35 mm et du coup on l'a retrouvée, donc on est en montage.
Mais vous avez entendu cette histoire de tirer à hasard qui avait eu ça, qui avait paumé toutes ses bandes master dans
ça
une bagnole.
Fois, ouais,
c'était ouais, noir quoi. Il sortait de studio.
Attends, mais le truc 35 mm, c'est des conneries ou c'est...
Non, il y a eu pas mal de... On a Boom qui est sorti avant l'été.
Ouais.
Ouais, qui sortait juste après Space Invaders.
Bien sûr.
Donc la troisième pédale d'une troisième et dernière pédale d'une série.
On a fini exactement.
Denis revient de vacances en fait.
Donc je suis parti m'occuper un peu de mes comptes offshore. Ça prend un peu de temps. Et il faut placer tout cet argent. Et donc c'est la période où on a des idées, alors j'essaie des trucs, on écoute des machines anciennes, plus récentes, Alf me parle de ce qu'il est.
Ah là, vous êtes en recherche. Donc,
ouais. Non, on n'est pas vraiment en recherche en fait. On est fixé déjà sur des idées, sur des choses.
On n'en
est
pas une quoi. Ouais.
Non, on peut le dire, ça va. On écoute des bits de jazz, on fume des pétards. Ça
va. Non, mais
de la R&D quoi.
C'est ça. Non, mais pour arriver souvent sur finalement ce qui arrive chez les gens, il y a une multitude de rebonds, de produits, d'idées, de choses qu'on essaye finalement de juger pertinentes ou pas.
Il y avait des trucs, tu m'avais dit, des idées que tu avais eues, que vous aviez commencé à développer, puis finalement que tu as abandonné. Alors, c'est déjà arrivé.
Non, c'est vrai que souvent, comme nos machines souvent sont inspirées, vont être inspirées d'objets anciens, enfin de boîtes à rythme, de vieux samplers, de choses dans le genre. On part souvent d'une. Enfin, on se dit, tiens, essayons d'extirper ça, d'en faire une nouvelle machine, puis souvent ça part sur d'autres choses, et ça peut petit à petit, on passe de la copie, entre guillemets, à un nouveau produit qui va s'inspirer de ça. C'est un peu ce qui s'est passé avec le biscuit, qui était à la base une copie du Fairlight.
Je l'avais vu comme ça.
Et c'est devenu le biscuit. Donc peut-être que ce qu'on est en train de faire là, on écoute des sons, on écoute des machines, on s'intéresse à des choses. Et puis petit à petit, ça crée un nouveau produit qui est un hybride un peu. Voilà. Donc là, oui, il y a.
J'allais en parler parce que le biscuit, il est plus fabriqué.
Non.
Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient un biscuit 2.
Il y a beaucoup de gens qui l'aimeraient parce qu'il est plus fabriqué.
Bah oui, bien sûr. Et du coup, c'est un truc sur. Est-ce que c'est du passé ? Ça vous excite plus d'y revenir ?
Non, on y a pensé. C'est vrai que ça nous excite moyen parce que bon.
Bah vous en avez un donc.
Ouais, nous on a le premier. On a des numéros 1. Mais c'est vrai que c'est un peu moins excitant. Si on était vraiment dans une démarche typiquement commerciale, peut-être qu'on l'aurait fait plus tôt. Mais bon, il y a des très bons plugins, sinon.
Oui, voilà.
mais non, il y a plein d'idées. Donc c'est vrai que comme on est une toute petite structure, on préfère.
Il y a un pourcentage sur le plugin UA. Donc
achetez-le. Et donc, c'est vrai qu'on a pas mal d'idées. On a un produit là qui est quasiment fini, qui est quasiment fait maintenant, terminé. Et
d'accord.
Puis en schéma, enfin en termes de développement, il y a encore toute la partie design, production, mise en route, etc.
D'accord.
Ça sortira pas tout de suite. Et puis il y a des idées, il y a beaucoup d'idées, on peut pas vraiment parler parce que c'est des choses qui se mettent en place.
Entre nous là, vas-y.
c'est celui dont tu n'avais pas voulu nous parler déjà la dernière fois, c'est ça?
Je m'en rappelle plus.
Mais il a peut-être changé.
En fait, ça évolue pas mal. Ça évolue. Puis, en fait, comme je suis pas ingénieur, donc je pense que quand on est purement ingénieur, on peut penser une machine et la définir quasiment sur le papier entièrement.
Ouais.
Quand on n'est pas ingénieur et que nous, effectivement, on recherche plutôt une sensation sonore, c'est un peu plus long parce que je fais des prototypes, on les écoute, on modifie.
Prototypes, c'est direct de l'électronique. Hein.
Ah ouais, complètement. Il n'y a
jamais de phase de conception logicielle. Parce que je veux dire, avec des trucs comme XMSP, tout ça, tu peux.
Bah là, c'est que du code, ouais.
Tu peux tester, des idées de routing, des conneries comme ça.
On pourrait faire des protos virtuels.
Oui, juste pour, pour valider le synoptique, quoi.
Bah souvent, en fait, c'est les erreurs ou la limitation de l'analogique qui va être la base d'une machine auto. C'est ce qu'on recherche. Donc c'est vrai que la simuler sur un ordi, ça veut. Parce que, bon, par exemple, faire un délai, on a voulu faire un délai, on s'est inspiré des délais 12 bits sans vouloir non plus les copier.
Ouais.
Donc on voulait trouver ce qui faisait le son. Donc finalement, un délai, si on le simule sur un ordi, c'est un délai. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, en écouter des anciens, faire des synthèses entre plusieurs produits. Construire un prototype, l'écouter. C'est vrai qu'on travaille vraiment au niveau hardware, même si après il y a toujours un peu de code intégré dans les machines. Ça reste des machines essentiellement analogiques.
Vous subissez l'influence de vos acheteurs ou pas hein? Parce que vous avez des clients prestigieux, je crois savoir.
Non, il n'y a aucune influence en fait. Non. On fait exactement ce qu'on veut.
Non, mais
si on en viendrait à branler après le
dit. Voilà, toi, il ne faut rien par exemple, c'est ce qu'il voulait faire.
Je vais au studio de Val, on écoute de la musique.
Non, mais c'est vrai, on ne réfléchit pas du tout en se demandant. On a envie de faire des choses. Ouais. Au départ, l'idée de Auto, c'était aussi de proposer des outils qui ne soient pas déjà disponible sur le marché. L'arrivée du biscuit, c'était quelque chose qui était inédit. Il n'y avait pas une machine hardware équivalente qui proposait la même chose.
Mais c'est toujours le cas.
Voilà, donc ça c'était différent là avec la série Bim Bam Boom, bien que c'était des classiques existants du couteau suisse qu'on peut avoir de la palette audio et de traitement, mais à la sauce auto avec la poésie de Denis, du fait de tous ses choix à chaque fois qui font qu'il décide que ça va être comme ci plutôt que comme ça, de limiter, de composer avec tel type de d'appareillage ou de composants électroniques. C'est tous ces choix qui font qu'à la fin, on a une machine avec une qualité sonore qui lui est propre. Et c'est les choix, et c'est les goûts de Denis, en fait. C'est un peu l'artiste de l'affaire.
Arnaud, je crois que le chat avait quelque chose à dire.
Oui, j'ai plusieurs remarques intéressantes.
Ah, vas-y.
Déjà, Bertrand, R&D, c'est pour résine et défonce.
Ah,
c'est ça.
Sinon,
on va rebaptiser le département.
Sinon, il y a Sylvain qui dit à quand une journée de formation des produits auto par Alf.
Ah,
pourquoi pas.
Ah, oh, oui. En même temps, ils sont assez facilement utilisables. Oui. Donc, l'idée aussi de ces produits, c'est qu'il n'y ait pas besoin d'une formation, qu'on ait juste à regarder vaguement un peu comment ça marche et puis qu'on puisse s'amuser assez immédiatement.
Alors, le bouton est à zéro, ça compresse pas. Tu tournes le bouton, ça compresse.
Voilà, on a quand même mis qu'un bouton sur le compresseur. Faut quand même pas. On peut pas faire une formation sur un bouton.
Il y a d'autres.
Et le dernier, c'est Dudu qui habite en Nouvelle-Calédonie.
Bonjour Dudu.
Qui dit qui livre les produits. Alors, il est 7h15.
D'accord. Oh la vache, 7h15 du matin.
Ouais. Il s'est levé pour
merci
Dudu. Merci Dudu.
Et il y a quelqu'un de Dakar aussi au passage.
Oh. Bonjour Dakar.
Donc qui livre les produits auto en Nouvelle-Calédonie? Je vois juste l'Australie dans les distributeurs.
Ben moi je peux venir, mais par contre faut que l'utilisateur prenne le
billet. Ça fait partie de la R&D de Denis. Tu m'étonnes qu'il y avait 6 mois à faire une vidéo, le mec. Il va livrer en Nouvelle-Calédonie, quoi.
Et on se fait des petites vacances, et voilà. On
fait notre tournée, allez.
Mais j'aimerais bien comprendre plus comment ça marche entre vous deux. Ouais. C'est-à-dire, toi, j'ai l'impression qu'on a bien compris que tu soudais, tu faisais la partie électronique, prototypage et tout. En fait, comment ça marche? Est-ce qu'il y en a un qui ramène l'idée en premier ou est-ce que ça vient d'une discussion?
En brainstorm, en fait.
Ouais. Voilà. Et sur la base d'un brainstorming, toi tu commences à produire des trucs et ils te les prêtent et toi tu essaies de les utiliser en contexte.
Ça a commencé comme ça. La première fois qu'il est venu, on parlait de la première séance. Non, c'est ouais. La
ouais.
Je faisais une petite remarque. Quand t'es venu à la frette, effectivement, il a vu, c'est la première fois, il a vu mon beurrier qui était le prototype du biscuit.
Non, j'ai pas vu ça en fait.
C'était pas ça?
Quand la première fois, donc j'étais à la frette, la vraie histoire, c'est que Denis m'emmène dans son atelier au fond du studio.
Ah ouais.
Et là sur les étagères, Et là sur les étagères, je vois une machine, un rack, un nu à décorer.
À pain à la main, ouais.
Pas à la main. Je lui dis qu'est-ce que c'est que ce machin et tout. Il me dit ça c'est plusieurs pédales électro-harmonix qui sont fédérées dans un rack et qui étaient à l'époque peut-être commandables en MIDI,
les on-off, preset et tout ça, tout contrôlé.
Et là j'ai fait waouh, le gars est capable de faire ça.
Ouais.
Ensuite on a commencé à délirer sur l'idée que Denis puisse devenir propriétaire d'un appareil qui s'appelait le Kaima.
Ah oui, le Kaima. Oui.
Qui était un outil de sound design assez sophistiqué, développé par des Canadiens, que Denis a
acheté direct. Acheté. Moi, quand Alf dit un truc, j'achète. 3000 euros. Allez, hop.
Allez.
Ouais. Non, mais c'était une machine complètement qui nous faisait complètement fantasmer. Moi, je me voyais pas du tout l'utiliser. Et donc, Denis, il s'est jeté là-dedans et ça a donné quelques expérimentations.
Non, on a fait de la musique avec.
Ouais, on a fait.
C'est un genre de Max MSP avec un hardware, donc tout un des DSP, etc. C'était un truc énorme. C'était super.
Ouais, c'était super.
C'est bien marré. Ouais. Mais il y avait déjà le beurrier, non? J'avais déjà fait le.
Et le beurrier, il est arrivé en fait au moment où toi tu continues à travailler à la frette ou en freelance et le dimanche après-midi, il avait fait cette machine là dans une boîte à beurre jaune fluo.
Et pourquoi alors ces noms d'ailleurs, le beurrier?
Albert Beurrier, on l'a surnommé comme ça parce que c'était.
C'était dans un beurrier en plastique.
Dans un beurrier en plastique.
Ouais. Donc c'est pratique.
Il a été beurrié pendant longtemps. Et puis, donc, Denis arrive avec ça. Je le branche sur une boîte à rythme. Et là, je commence à m'éclater avec ce truc. T'es complètement fou, quoi. Je lui pique, je fais 2-3 séances avec le truc, je mets les batteries là-dedans et tout. À chaque fois, les gens ils me voient sortir le machin jaune fluo avec des boutons, c'était n'importe quoi le truc. Et enfin bon, c'était toujours un peu curieux de ce truc-là. Et puis à un moment, j'ai dit quand même, cette machine, elle m'amuse vraiment. Je trouve que en plus, ça a une sonorité qui est assez chatoyante par rapport à l'époque dans laquelle on est.
Ouais, ouais.
C'était, on était quoi, 2004, 2005.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et j'ai dit, il faut absolument que t'en fasses quelque chose. Ça peut pas s'arrêter à juste moi qui utilise ce truc-là dans une séance. Et puis de là est venue l'idée que Denis puisse accepter de raccrocher ses gants d'ingénieur du son et de se destiner à une carrière de développeur de matériel audio.
Il s'est bien débarrassé d'un bon concurrent.
Exactement. Ça, ouais,
il a trouvé la bonne technique.
C'est malin. C'est exactement ça.
C'était à ce moment-là que R voulait demander justement à Denis
de faire le il était trop chaud, à cette époque-là.
Et toi, t'as accepté alors
mais c'est
direct.
Bah oui, non, mais c'est vrai que, en fait, c'était quand même un très très vieux rêve. Quand j'étais plus gamin, plus jeune, je fabriquais déjà des trucs et je pense que ça a résonné. Et surtout, Alf a fait vraiment progresser le produit. M'a dit, tiens, ça serait bien que ce soit stéréo, petit à petit qu'il y ait des mémoires. Il y a tout un truc qui. Là, il a en fait pensé aussi à un vrai produit qui ne soit pas un truc bricolé, parce que moi, j'aurais pu en fabriquer une dizaine à la main.
Il voulait peindre ses trucs à la main.
Ouais, voilà, il y avait un truc artisanal.
Côté artisanal, un peu baba.
Le côté collier de nouilles. Voilà, exactement. Exactement. Et Stéphane, lui, voyait déjà tout de suite un truc plus sérieux. Il m'a fait rencontrer H5. Qui sont des designers, donc il y a eu une idée d'en faire un produit joli et puis tout de suite peut-être de le diffuser. Et comme j'avais déjà,
C'est vrai que toi, le fait tout de suite de l'utiliser en séance, il y avait du coup une vision sur le fait qu'il fallait que ce soit productif, que ce soit utilisable, qu'on puisse bosser avec quoi. Et...
Oui, puis l'idée du 8 bits aussi, je me souviens, ça a commencé un petit peu avant parce que moi j'étais un petit peu attiré par tous les sons de 8 bits, jeux vidéo, la Game Boy, les machins, les cartouches Nanoloop, Little Sound DJ, tout ça. On allait voir des concerts à Oberkampf.
De cheap music, absolument. C'est moins insupportable.
Sérieux.
Avec des gens avec des cheveux longs et gras.
Mais moi j'écoute, tu parlais d'Amstrad, moi j'écoute encore.
T'écoutes ton Amstrad.
J'écoute des playlists.
Tu l'allumes et puis t'écoutes.
Non, mais
ton
moi
Amstrad.
Je l'enregistrais sur cassette quand j'étais gamin et j'écoutais ça dans mon Walkman. Bon, je sais, c'est.
Voilà, regardez ce que ça donne.
Voilà.
Du François Valéry en 8 bits.
Si j'avais pu trouver, franchement.
Non, c'est vrai que c'était l'époque aussi. Et puis, je pense que t'avais une vision d'un. Ouais, d'un. Il avait. Ça va, comme Alf, il côtoie des musiciens depuis maintenant, je sais pas, 25 ou 30 ans. Il a tout de suite. Aussi travaille dans les studios, donc il y avait vraiment une double vision de c'est une machine qui peut servir aux ingé-sons, qui peut servir en live. Bah,
c'est ta caution, Stéphane, c'est ta caution. Ça peut vraiment servir ce que je fais.
Bah, c'est vrai que quand il m'a dit que c'était bien, ça m'a un petit peu motivé parce que c'est vrai que moi, personnellement, ça serait resté un beurrier dans ma cuisine. Et c'est vrai que c'est Stéphane qui a vraiment eu l'idée.
Mais on a la même relation en fait. Moi, j'ai la même relation avec Denis que je puis avoir avec n'importe quel artiste avec lequel je fais un disque. D'accord. En fait, dans l'échange qu'on puisse avoir sur ce qui est fabriqué, c'est ça qui est un petit peu excitant. Pour moi, Denis, c'est ni plus ni moins qu'un artiste qui développe à travers son média électronique sa manière de dire les choses. C'est assez étonnant de proposer une forme d'expression en fabriquant du matériel électronique, mais c'est un peu, je trouve qu'il a une personnalité et j'arrive à entendre ses goûts à travers les machines qu'il produit.
Ouais.
J'entends sa production électronique, je veux dire, c'est assez particulier. Donc ça veut bien dire qu'il a une patte qui lui est propre, et c'est ça que je trouve intéressant et c'est ça que j'encourage à mettre en valeur.
Exactement. Ça se sent chez Otto.
Et puis il fait ça avec le cœur et il a du goût parce que pas mal de choses, il est cultivé en cinéma, en musique, c'est quelqu'un d'ouvert, donc tout ça se retrouve dans sa proposition.
Mais ça te manque pas, du coup, les séances te manquent pas du tout, parce que t'as abandonné le côté ingé son, ça te manque plus du tout.
C'était un peu dur au début parce qu'on passe effectivement d'un rythme. Moi en plus, je travaille dans un studio résidentiel ou parfois en freelance, où c'est vrai qu'on parfois on
on travaille tard, on fume pas que des cigarettes, etc.
Oui, et puis tu faisais la bouffe, tu faisais tout là-dedans, t'occupais du machin.
C'était un peu délirant, et pratiquement du jour au lendemain, je me retrouve à 8h du matin à appeler le service production, service méthode d'une usine pour lancer des choses. C'est un autre univers.
Toujours dans la Mayenne ?
Alors toujours en Mayenne.
La grande Mayenne ?
Et c'est marrant, c'est un autre monde. Alors, effectivement, au début, c'était un peu dur de se lever tôt. Toujours, c'est toujours un peu dur, d'ailleurs. Mais disons que c'est un autre monde. C'est vraiment un autre univers. Ouais. C'est d'autres personnes. C'est souvent en dehors de Paris, parce que les industries sont en dehors de Paris. C'est vrai, c'est un nouvel univers. Et c'est marrant parce que aussi, on a une démarche qui est effectivement un petit peu artistique, mais qui reste à un moment donné vraiment de l'industrie. C'est des cartes.
Ouais.
Donc, on a affaire à des gens. Là, par exemple, bim bam boum, on met de la peinture de couleur sur des tôles en couleur et ça ne matche pas toujours.
Ouais.
Et c'est très dur de leur expliquer ces problèmes-là, parce qu'ils ne sont pas du tout esthétiques. Enfin, on leur donne un cahier de fabrication, ils le font. Donc c'est marrant aussi, cette confrontation est intéressante.
Ouais.
Et même pour eux, c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils ont l'habitude de travailler avec Thalès, avec des gros groupes.
Oui,
et
oui.
Puis moi, j'arrive un peu comme ça, à route, à l'arrache, en disant je voudrais ça. C'est pas beau.
Ah, c'est pas le bon jaune. Parce que je pense que Thalès, ok. C'est jaune. Okay,
d'accord. Bah eux surtout ils ont la charte, ils ont mis le code précis de la voiture. Et puis,
oui,
donc non ça me manque pas. Et puis c'est quand même une démarche intéressante parce qu'elle est effectivement on essaie de proposer des produits. Là en ce moment justement on réfléchit à des produits qui puissent être à la fois innovants, c'est-à-dire des choses qui n'existent pas. Et en même temps c'est très dur de faire des choses qui n'existent pas vraiment. Mais avec à chaque fois une proposition électronique, une proposition hardware, il y a toujours beaucoup de hardware. C'est pour ça que ça prend du temps parce qu'on écoute. Donc Alf, c'est un peu mon producteur un peu. Il a des idées.
Sparring partner.
Moi personnellement, quand ça passe les boulons, quand ça passe.
Je fais un peu un boulot de DA quoi.
Voilà, il enrobe le truc, il donne les noms, c'est toujours les noms. Voilà, c'est toujours.
J'ai mon nom des Stéphane, c'est grâce à moi.
C'est toujours lui les noms, l'esthétique en fait, le concept, le produit. Et puis c'est vrai que quand j'ai un doute sur l'utilisation, on met un écran, on met pas un écran. Comment sont les touches? Là, c'est sûr que Stéphane, il a vraiment une notion. Il a un rapport avec les machines qui est très direct.
Ouais.
Il connaît la technique, mais si elle est trop présente, si elle est handicapante,
surtout j'y comprends rien.
Donc ça me donne vraiment une vision. Je me dis effectivement là c'est trop compliqué. Ce que je propose, ça va pas. On va enlever les choses.
Oui,
vous n'êtes pas
du style à faire un H3000 d'Eventide, voilà.
En tout cas pas.
Denis va peut-être pouvoir le faire, mais moi je l'utiliserai pas en tout cas.
Pas sous cette forme.
Non mais les trois quarts des mecs. Les trois quarts des mecs qui ont H3000, ils l'utilisent pour trois presets quoi.
Bah,
c'est délirant.
Bah ouais, alors qu'il y en a 600.
C'est une machine géniale en plus.
Hein.
Bah,
c'est
super.
Oui, super dedans.
Mais d'ailleurs même en plugin c'est imbitable quoi. Et pourtant c'est déjà plus simple, mais c'est compliqué ouais.
Et justement, une déclinaison en plugin des autres effets comme ça a été fait avec le Beastie,
ah oui,
c'est quelque chose qui
nous
intéresse.
On nous l'a demandé, Softune nous l'a demandé, a demandé le BAM.
Peut-être qu'on fera la trilogie au moment, le moment venu.
Mais toujours, parce que c'est chez...
Donc toujours avec Softube, du coup.
Ouais, parce que l'Universal, c'était Softube qui a développé le plugin, parce qu'il développe pratiquement plus de plugins eux-mêmes. Enfin, les plus gros, ils se gardent.
Oui, bien sûr.
Mais sinon, c'est Softube qui fait.
Et c'est que sur plateforme UA ou c'est tout.
Alors maintenant, non, c'est passé depuis.
Oui, voilà.
Achetez-le aussi. Hein, achetez-le.
Mais c'est intéressant que ce soit natif parce que je crois qu'au
maintenant,
départ, c'était uniquement
natif.
UAD.
Ouais.
Ouais, tout le monde n'a pas Apollo. Ouais.
Là, c'était, maintenant, okay. C'est passé chez Softube. Vous pouvez l'acheter.
Il y a quelques mois. C'est très récent.
C'est
ça. Passage natif.
Et il faudra attendre combien de temps pour le prochain produit?
Après la vidéo.
Je sais pas. C'est ce qu'on
il a
mis une raison,
à faire en Nouvelle-Calédonie.
Non, c'est plus pour le courant du début d'année prochaine.
Il va faire la R&D en Nouvelle-Calédonie
prochaine. Je sais pas.
Non, mais moi, je mets toujours un peu la pression. De toute manière, ça met toujours plus de temps.
Ouais. Non, mais dis-moi à la milieu de l'année prochaine, comme ça, je pourrais mettre un peu le turbo. Non, mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident parce que de toute façon, parfois, vous faites un proto, vous allez très loin, puis vous vous rendez compte que finalement,
c'est tout pété, ça.
C'est moche, c'est nul. Là, en général, quand je vois Alf, s'il fait la gueule, je sais que bon, a priori, il y a un truc qui va pas.
On va
changer. Il n'y a même plus besoin de parler. Et puis, parfois aussi, le moment où vous êtes presque prêt et le moment où vraiment le produit sort, ça prend très longtemps. Parce qu'on est une petite structure, donc on n'a pas le poids de. Voilà, ça s'est amélioré, l'industrie va de plus en plus vite.
Ouais.
Maintenant, on peut avoir des prototypes, mais quand j'ai commencé, fallait compter un an et demi, fallait compter deux mois ou trois mois pour avoir un prototype d'usine. Ouais. Après, fallait valider. Après, fallait acheter les composants. Il y a des pénuries de composants en ce moment, donc ça retarde. C'est assez long. On peut pas vraiment savoir.
Ça a l'air déjà quand même pas mal avancé. Si tu me dis premier trimestre 2019.
On verra.
On verra, on verra.
On va essayer de speeder. Ouais. Non, mais il faut qu'on speed.
Allez, qu'est-ce que vous foutez dans un podcast à la con?
J'ai retourné.
Merde. Vous avez mieux à faire, les gars, là. Bon, allez, écoutez, c'est l'heure du Carapella. Alors, on s'est énormément creusé pour le thème du Carapella. on s'est dit, allez, on va faire la disco de Stéphane. Voilà. Donc alors
c'est alors hein.
Et ben moi du coup justement c'est moi qui ai lancé
parce que bon ils ont peut-être pas regardé toutes les émissions et tout le Carapella ouais, c'est karaoké et a cappella, c'est-à-dire qu'on va chanter des trucs et va falloir deviner ce que c'est quoi.
Voilà.
Donc là on chante que les notes, on dit pas de paroles.
Ouais,
c'est ça?
Bah ouais. Donc faut deviner ouais.
Donc et c'est un rapport avec la discographie de
alors je sais que moi j'avais proposé ce thème là mais du coup comme c'est moi qui ai proposé cette règle là, j'ai dérogé à cette règle et moi j'ai fait dans la c'est des artistes qui sont soit dans ta discographie
mais qui sont utilisateurs
soit des artistes
pas forcément ouais, des chansons dans que vous avez
à qui on sur, des auto
des mecs alors je vous dis notre base c'est Discog, donc c'est des artistes sur lesquels vous êtes crédité sur Discog. Okay. Voilà.
Ok, bah écoute,
il y en a, je savais même pas qu'il y a des articles qui créditent notre matos.
Mais non, pas le
matos. Ah non, pas le matos.
Toi,
en tant qu'ingénieur du son.
Ah,
ouais, donc souvenir.
Oh, bah, ta vie d'avant.
Je suis rangé les voitures.
Ah ouais, c'est.
Du coup, si on se plante, c'est pas notre faute, c'est Discog.
Ouais, donc je commence. Normalement, ça devrait aller vite. La 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 la.
Ah, il t'a par la main.
Yves Duteil, j'ai travaillé avec Yves Duteil, c'est vrai.
Ouais. Bon souvenir ou pas?
Mais vous comprenez pourquoi je suis content de. Je travaille dans l'industrie, non, je déconne.
J'ai travaillé avec Yves Duteil et après je me suis dit, il faut que je fasse biscuit.
J'arrête du jour au lendemain. Il est revenu le lendemain, il n'y avait plus rien.
Il manque un truc sur la gorge.
Je suis parti monter auto.
À la frette, t'as fait Yves Duteil?
J'ai fait Yves Duteil à la frette. C'était très gentil. Il nous a payé un repas, tout ça.
Ouais. Voilà.
Ouais. Ouais, très sympa.
Mais c'était quoi?
Non, mais je lui ai dit, c'était quand même mignon. Hein. Quand j'étais petit, mes parents avaient le disque Prendre un enfant par la main. Quand même.
Ah bah oui. Voilà, qui est devenu un hymne belge.
Très chanté dans les prisons d'ailleurs.
Bref. Bon, voilà. Esther, est-ce que tu veux chanter?
Je veux, ouais. Qu'est-ce que je vous fais? Je vous fais le couplet ou je vous fais le refrain? Je vous fais le refrain, ça sera plus simple.
Allez, vas-y. Ouais. Ah, Four Non Blondes?
Non.
Yeah.
Ça me dit quelque chose,
ça ressemble. Ça ressemble. Ah oui, non, mais si. Attends, dis rien.
Ah un monde parfait.
Si, oui, un monde parfait. Ah, voilà, les innocents. Ah, les innocents. Oui.
Ah, tu sais quoi? En fait, je te le dis, Esther, parce que je veux surtout pas que, parfois, on galère pour trouver ce que tu chantes. Et en fait, le problème, c'est que c'est comme au Pictionary. Les gens qui savent bien dessiner au Pictionary, tu comprends jamais ce qu'ils dessinent. Et ben, les gens qui chantent trop bien.
C'est vrai.
En fait, il y a trop le truc, si tu veux, alors que quand tu chantes comme une merde, c'est bon.
Attends, mais on a même pas fait les reveals en plus, Arnaud. Tu veux ton reveal?
Oh, si tu veux.
Quoi, reveal?
Prendre un enfant par la main. Ouais, c'était bien. Souvenez-vous. Allez, Esther, le tien.
Là-dessus, ouais. T'avais fait la séance. Ah, j'ai écouté ça, hein.
Ouais.
Comme
attends,
tous les gens qui écoutaient la
radio. Bah,
franchement, quand je regardais la disco de Stéphane, il y a tellement de disques que j'ai kiffé.
Ouais, ouais,
ça,
ouais.
C'est un truc de fou.
Ouais.
Truc
bon, il y a un compliment pour Esther. Enfin, quelqu'un qui sait chanter ici.
Ouais. Bah oui, mais oui.
Ouais, mais du coup, ça sert à rien.
Ça va, le chat là. Vas-y, chante sur le chat là pour voir. Voilà. Ah, bon.
Alors si, il y a Bertrand qui te soutient, qui dit on aurait dit What's up les For Not Blondes.
Ah, effectivement. Ah, quand ouais, même.
Et ah. C'est hey, yeah, yeah. Ça, c'est les For Not Blondes. Enfin, quand même.
Mais bah, il y aura un procès d'ailleurs des For Not Blondes vis-à-vis des innocents ou l'inverse. Je sais pas, ce serait drôle.
C'était une maquette de...
Donc comme je disais, il y a plein de trucs que j'ai aimé dans ta disco, et notamment le
Kelly Watch the Stars.
Kelly Watch the Stars. Alors t'as fait quoi exactement sur Ah, il s'arrête jamais.
C'est lui qui fait Kelly
sur R.
Ouais, sur R. Ouais.
L'enregistrement et le mixage. De...
D'accord.
Ah ouais.
Cool.
J'imagine que tu dois l'entendre différemment du coup maintenant. Tu l'as écouté des heures et des heures.
Oui, mais c'était quand même il y a
longtemps.
Il y a 20 ans passé maintenant, ouais. Donc ouais. Ça va. Y a
une bonne expérience depuis. Grosso modo. Ouais.
Oui, très bonne, excellente.
Ouais.
Ouais, super. C'est génial, c'était génial de participer à un disque qui a pu être visible comme ça dans dans le monde entier. je me souviens de m'être rendu compte en fait du phénomène en allant masteriser l'album à Londres avec les gars. Ils me disaient ouais, il se passe des choses en Angleterre, tout ça, mais je me rendais vraiment pas compte jusqu'au moment où on va là-bas et eux ils étaient en couverture de Q, ils étaient dans les vitrines.
C'était la première fois que t'étais impliqué comme ça sur un énorme succès.
Avec un succès international comme ça, oui, c'était quand même pas, ça courait pas les rues sur des productions françaises.
Et ça t'a ouvert des portes du coup
Ouais, que j'ai pas géré à l'époque, mais oui, ça aurait pu.
Ouais, t'as fait quand même du beau après, quoi.
Oui, enfin après, c'est toujours. Ça aurait pu être intéressant de partir à l'étranger, mais c'est pas quelque chose que j'ai fait.
Bon, ils ont été fidèles, les R avec toi après.
Oui, on s'est retrouvés au fil du temps sur différents projets jusqu'en 2009. On a refait un disque ensemble.
C'était lequel?
Love 2.
Love 2.
Moi, je me souviens de. C'est toi qui avais fait sur 10 milliards, c'est Legend, le truc, tu sais, avec la grosse basse.
Non, j'ai pas participé à 10 milliards.
Ah, t'étais pas sur 10 milliards, d'accord.
Non.
Bon, le seul
bravo.
Qui est pas.
Ah, voilà, bravo. Clac.
Bam.
Hein. Mais après oui, eux, c'est des gros collectionneurs de matos, ces mecs-là.
Oui, ils avaient. Enfin, il y avait toujours une.
Il y avait des trucs rigolos en studio, quoi.
Sur les synthétiseurs et
ouais,
tout ça.
Ouais, les synthés, les.
Il y a toute la collecte.
Le vocodeur.
Oui. Il y a toute la palette de ce qui peut être disponible. En plus, vu qu'au fur et à mesure, il y avait de plus en plus de moyens, ils avaient la possibilité d'acheter tout ce qu'ils voulaient. Donc, c'était pas... Ouais, c'est marrant. Bon, c'est comme le matos, on s'en fout. Une fois qu'il est partout, on ne le voit plus. Hein. C'est plus ça, vraiment.
Et puisqu'on en a parlé séance d'ailleurs, est-ce que t'as souvenir d'une séance
avec trouvé... l'air?
Non, même en général, qui t'a particulièrement ému ou enfin, en gros, dans ton top des séances, les petits moments de grâce comme ça que certains peuvent vivre en studio.
J'étais assistant à ce moment-là, mais j'ai un très bon souvenir d'un jour où Hubert Mounier, le chanteur de L'Affaire Mistrio, faisait des voix pour l'album Mobilis in Mobile.
Ah ouais, un super disque. Très beau disque. Quoi.
Voilà, donc il enregistrait les voix et. Je ne me souviens plus quelle chanson il s'est mis à chanter, mais c'était très émouvant. Enfin bon, il s'était passé quelque chose qui est assez rare d'être ému en studio avec une prise, deux prises. Enfin, il s'était passé quelque chose.
Surtout qu'en plus, c'était un tournant dans l'histoire du groupe parce qu'ils étaient sur un registre un peu humoristique jusqu'ici, enfin perçu comme ça avec Chic Planet. Et puis là, ils montraient que bon, il y avait du songwriting, il y avait une qualité groupe, d'écriture. Hein,
c'était un moment assez où je me souviens d'avoir été ému par la prestation du gars. J'avais même été le voir pour lui dire putain, ça m'a.
Ouais.
Enfin, je suis pas du genre à aller voir les gens pour leur dire.
Bien sûr.
Et là, j'ai jamais été quand même fendu de.
Ouais.
J'avais été tellement touché qu'il fallait que je lui dise, quoi.
Et une séance cauchemar, t'en as connu?
Ouais, il y en a plein.
Des noms.
Généralement, c'est pas forcément des gens avec qui.
C'est plutôt des noms de matos.
Non, mais c'est pas forcément les gens les plus connus, donc j'ai pas d'histoire spécialement.
Vas-y, tu peux balancer.
Mais bon, il y a des situations loquaces, il y en a toujours des tonnes, hein, c'est sûr.
Ouais.
Bon, mais il manque quand même un truc dans ta discographie, j'ai l'impression, c'est le gros rock qui tâche.
C'est quoi le gros rock qui tâche?
C'est comme le gros rouge qui tâche, mais en
le gros quoi. Rouge qui râle, qui avait les grosses guitares bien saturées. Est-ce que c'est parce que t'es arrivé au moment où ça commençait à décliner le gros rock français, le métal et tout ça?
Mais as-tu fait allusion à quel genre de groupe, par exemple?
Je fais allusion à ce qui se faisait, par exemple, dans les années, au début des années 80, ou dans les années 80.
Bon, moi, j'étais à l'école dans les années 80.
Non, mais juste, voilà, mais justement, c'est les années 90. Ouais, on peut pas dire que ça a été formidable
pour le. Non, j'ai jamais été trop sensible non plus à ça. Puis les groupes de métal français, je sais pas, il y en a eu quelques-uns, mais ça.
Il y avait Lofofora, non, à l'époque.
Ouais,
Oui, il y a tout le groupe.
Oui, il y avait No One.
Non, j'ai jamais été là-dedans, ni par goût, ni par hasard.
Ils faisaient venir des ingénieurs américains, d'ailleurs. Je connais deux versions qui bossait dans No One, et il y avait Ron Saint-Germain qui était venu mixer par exemple. Enfin,
bah c'était, je crois qu'à la base, enfin voilà, je me souviens plus lesquels, mais il y en avait un, c'était un projet limite monté de maison de disques, je sais plus, c'était Lofo ou j'en sais rien. Voilà, c'était la mode où il fallait avoir son groupe fusion, et donc ouais. Voilà, ils avaient constitué un super groupe. Voilà, on met un gros ingé son derrière, et puis voilà, et puis ça marche quoi.
Souvent ils allaient enregistrer.
J'ai fait FFF une fois.
Fait quoi de FFF?
Enfin c'était je sais pas si c'est FFF, c'était un morceau qui était sur une compile qui s'appelait Hostile.
Ouais.
Qui était en fait avec Marco Prince et Yarol. C'était pas vraiment sous le nom d'FFF, c'était Dieu créa la femme. Il y avait des grosses guitares samplées et tout qui étaient.
Ouais.
Voilà. Et j'ai fait un truc de corne aussi une fois.
Ah ouais, quand même.
T'as fait quand même.
Dans les années 90, français, la fin des années 90.
Ils étaient venus à Fustante.
Ouais, j'avais mixé un morceau de corne.
Non,
ouais. Je les ai jamais vus. Non, je les ai pas vus. Hein.
Ah oui, d'accord.
Non, mais c'est un truc.
Ouais, c'est pas plus ton truc que ça en tout cas.
Non, pas du tout même.
Ouais, d'accord.
Ouais. Enfin, il y avait le côté un petit peu épatant. Je me souviens d'écouter Rage Against the Machine au moment où c'est sorti. On écoutait ça sur les grosses enceintes là. C'était, c'était épatant quoi.
Ouais.
T'es là, oh là là, comment ils font ça? Mais bon, non, ça a jamais été.
Et j'ai vu. Alors, je suis obligé parce que je suis fan. Je suis obligé de te poser la question, mais j'ai vu que dans les albums auxquels tu avais participé, il y avait un disque de Jacques Higelin.
Ouais.
C'était la séance. C'était comment?
Ça c'est pratiquement un des premiers disques qui m'a été donné d'enregistrer en partie.
Ouais.
Et c'était Jacques Higelin, Cauchemardesque, qui était dans le studio Plus 30 déjà depuis 2 mois. Moi, j'étais un simple ingénieur maison pour Plus 30. On me disait, là, tu vas faire du dessin animé, tu vas faire Jacques Higelin, tu vas faire Michel Thor, tu vas faire... Enfin bon, donc j'avais pas mon mot à dire. Et il a viré son équipe avec qui il travaillait pendant 2 mois pour en intégrer d'autres. Et ils sont venus me voir en me disant, tu peux l'enregistrer des drums. Pour nous, c'était un Canadien, Québécois qui reprenait la production.
Ouais, donc
je veux bien sûr les drums, pas de problème. Et je m'étais jamais vraiment retrouvé à enregistrer des batteries tout seul. Et donc j'ai enregistré les batteries pour Higelin. C'était un très.
Ouais.
Non, c'était pas un souvenir très agréable. J'ai pas un souvenir très agréable de Jacques Higelin, de l'ambiance qu'il y avait dans ces sessions. Tout ça. Non, c'était pas super. C'était une bonne opportunité, mais c'était pas super.
Ouais. Ça te calme, c'est bon?
Ouais, ça me calme.
Bon, et si je te dis, Arnaud, si je te dis ça.
Ah ouais, ok.
Hein? Tu vois ce que je veux dire ou pas?
D'accord. Attends.
Donc là, c'est l'interview Ketchup Mayo. Alors, l'interview Ketchup Mayo, qu'est-ce que c'est le concept? C'est un concept qu'on a inventé. Hein. Je veux dire, il n'y a personne d'autre qui fait ça, hein, vraiment.
Non, pas du tout.
Ah, pas du tout. En gros, il va vous demander de choisir parmi deux choses.
Alors, ce qui est particulier, c'est que c'est un double Ketchup Mayo parce qu'on a deux invités. Voilà,
exactement. Donc il va vous demander de choisir parmi deux choses. Et évidemment, le but c'est de répondre rapidement. Hein. On n'a pas le droit de réfléchir. Il faut que ça soit tac au tac.
Voilà. L'un ou l'autre.
Alors en fait, je vais passer de l'un à l'autre. Je dis votre prénom avant la question. Vous devez répondre très vite. Il y a un timer juste pour vous speeder et on vous met des torgnoles.
Timer, genre un truc un peu relou, genre comme ça, tu vois.
Alors, Alf, hardware ou software?
Hardware.
Denis, SM57 ou U87?
SM57.
Alf, Mini Moog ou MS20?
MS20.
Denis, Bim Bam ou Boom?
Bam.
Alf, Air ou Phoenix?
Air.
Denis, Beck ou Jeff Beck?
Beck.
Alf, Star Wars ou Star Trek?
Star Wars.
Denis, Tofu ou Homestake?
Ah putain, c'est dur.
J'aurais pas pensé là-dessus.
Ah non, je sais pas. Allez, Tofu, répondez quand même.
Alf, vinyle ou cassette?
Cassette.
Denis et Alf, disque culte?
Crafter Computer World.
D'accord, et toi?
Bah moi c'était pareil Radioactivity là.
D'accord. Pareil tous les deux, le film que vous avez détesté. Un film que vous avez détesté.
Amélie Poulain.
Ouais, et toi?
Oh,
tellement.
Ah ouais, ah ouais,
c'est dur de choisir.
Non, c'est vrai. Je sais pas. Je m'en souviens pas, que j'aime pas.
Bon, allez, on passe. Denis et Alf, pareil. Un livre que vous avez adoré.
L'invention de Morel, récemment.
D'accord.
L'enfant du rock de Philippe Manœuvre.
Ah ouais.
Ah ouais. D'accord. Et la chanson que vous avez honte d'aimer. Le truc un peu nanar.
Prendre un enfant par la main.
C'est pareil.
Moi, il y en a plein.
Il y en a tellement, en fait.
Si on a tellement, vous
vraiment la truc dont on a honte. Ouais. Oh, trop. Ouais, on a honte de tout ce qu'on écoute. Tout à fait.
Ah non.
Non, je déconne. Qu'est-ce que ça pourrait être?
Bon, je passe. Ouais, allez, bon. Denis, le plus gros défaut d'Alf.
Allez, vas-y,
mouille-toi là.
Défaut.
Il y en a tellement. Et Alf, le plus gros défaut de Denis alors?
Il sait pas choisir.
Voilà, tu vois, lui.
Voilà, ça snipe.
Bravo.
Voilà. Bravo. Bien. Non, alors la chanson que vous avez honte d'aimer, vous avez pas trouvé quoi. Je sais pas, un petit Patrick Bruel.
Dalida, on en a pas honte. Moi,
non, c'est vrai.
Il y a le chat qui propose un défaut pour Alf, c'est aimer les chats.
Ouais.
Je sais pas si c'est un défaut, moi.
Non, mais aimer au point de les manger, en fait. C'est ça, ça veut dire. Ça.
D'ailleurs, d'où ça devient ce surnom, Alf?
À cause de l'autre, là, la bête à poil de la série. Ouais. C'est dans le premier studio dans lequel j'ai travaillé. Je me posais à 5 heures. Là, c'était l'époque où ils diffusaient Alf à la télé et le gars qui s'occupait du planning, t'es un mec un peu sympa. Il me dit, t'as vu, t'as la même gueule que lui. J'avais une houppette à l'époque. Et puis j'avais un gros blaze, donc il m'a dit, t'as vu, t'as la même gueule que lui et tout. Et le lendemain, à l'intercom, il m'a appelé Alf.
Et voilà, ça restait.
Et voilà, c'était foutu.
Bon, bah très bien.
Super, cette histoire.
non, c'est bien de terminer là-dessus, c'est franchement. C'est on est bien. Voilà, en tout cas, ce 18e numéro. Et vous savez quoi? On va faire moins de 2 heures. On va faire deux heures. C'est quand même ouf. Hein. Ouais. Franchement, c'est cette nouvelle formule, elle est pas mal. Dites-nous sur le chat si vous la trouvez pas mal aussi. Moi, je trouve ça cool. C'est bien centré sur les invités et tout. Franchement, je sais pas ce que t'en penses, c'était pas mal.
J'étais ravi en tout cas de.
Et oui, je voulais vous dire, je suis un gros con, mais vous allez savoir pourquoi. Mais d'abord, je voulais continuer. Donc voilà, ce numéro du 18e numéro est terminé. Merci à vous, Stéphane et Denis, d'être venus nous voir. Merci à nos partenaires DPA et Cameo de nous soutenir.
Oui.
Nos micros sont des De Facto 2, nos lumières sont des Cameo Theater Sport 60. Spot 60, excusez-moi. Le podcast est donc disponible sur YouTube.
Nos bières
sont des lèvres. Exactement. Sur YouTube, sur Facebook, sur iTunes, sur Deezer, sur Twitter et sur n'importe quel logiciel qui gère les fichiers XML. Voilà, n'hésitez pas à nous noter sur iTunes, mettre un pouce bleu, noter un 5 étoiles évidemment, hein. Mettre un pouce bleu sur YouTube et en parler autour de vous. Donc pour finir, on va écouter la compo du mois. Là où je suis un gros con, c'est que je n'ai pas le nom des groupes.
Oh non!
Voilà, si.
Non, on doit trouver.
Non, mais en fait, le fichier était nommé bizarrement. Donc, j'ai un petit peu conversé avec l'AF1 qui m'avait envoyé sa jolie compo. Et je lui ai demandé, mais en fait, c'est quoi le nom de ton groupe? Et j'ai pas reçu le mail de réponse à temps. Donc voilà. Donc, tout cas, je sais pas s'il est sur le chat ou pas. S'il est sur le chat, qu'il me donne le nom de son groupe, il saura que c'est lui parce qu'on a échangé des mails aujourd'hui. Donc voilà. En tout cas, c'est l'histoire d'un éthiopathe et d'un psychologue de Toulouse et de Montpellier qui ont décidé de faire de la musique ensemble, en fait, voilà. Et la chanson part sur...
Est-ce qu'un éthiopathe et un sociologue, ça fait un sociopathe?
Un éthiopathe, c'est un resto de pâtes d'Éthiopie.
Éthiopie, ouais, c'est ça, exactement, tout à fait.
C'est quoi un éthiopathe?
Donc la chanson part d'un arpège de guitare, ils ont enregistré avec une Les Paul dans un ampli virtuel, tout est virtuel quasiment, sauf effectivement la voix, donc basse virtuelle, et... modo basse, et je crois d'ailleurs ils ont choisi modo basse apparemment à cause de notre test.
Voilà. Ah ouais.
Apparemment, mais, on sert à quelque chose.
Surtout, moi, j'ai trouvé la voix super bien. Je crois qu'on avait déjà reçu un titre 2 il y a longtemps et ça a beaucoup progressé depuis le premier titre qu'on avait reçu. Et moi, je trouve la voix très jolie, quoi. Voilà. Très beau timbre.
Et donc, Modo Bass, donc basse virtuelle, batterie virtuelle aussi, Addictive Drums 2. Et puis voilà, donc on va vous faire écouter ça tout de suite. Donc, Momo, tu vas pouvoir mettre du coup l'iPad en solo et puis balancer le outro, voilà, la vidéo outro. Donc voilà, on vous dit en tout cas au mois prochain et je mettrai de toute façon dans les commentaires et dans l'article le nom du groupe, vous inquiétez pas. Voilà, ciao, ciao!
Salut!
Summer ends.